6h57 sur Europe 1, je vous retrouve demain dès 5h pour démarrer ensemble la journée. Vous êtes sur Europe 1, bon réveil. Et vous êtes avec Mathieu Béliard pour le 7-9. Bonjour Mathieu.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Mercredi 13 janvier 2021, soyez les bienvenus sur Europe 1, vous écoutez Le Monde Changé. Et ce matin, alors qu'on attend, pour certains avec impatience, les nouvelles annonces de Jean Castex demain soir. Écoutez directement le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy hier soir.
On n'est pas dans l'extrême urgence. Laissons-nous peut-être quelques jours pour finir de regarder les conséquences du 31 décembre, de ce mutant anglais. Poursuivons intensivement la vaccination. Et puis, qu'il y aura probablement un certain nombre de mesures plus strictes à prendre.
Il faut bien écouter parce que le Conseil scientifique remettait ses préconisations au gouvernement hier soir, justement, parce que c'est la base de travail du Conseil de défense sanitaire qui se tient autour du président de la République aujourd'hui. À partir de leurs analyses, les décisions. Les analyses sur l'état des lieux de l'épidémie, la propagation du variant anglais, sur l'effet des fêtes et la situation à l'hôpital. Les décisions, un éventuel couvre-feu généralisé à 18h, un nouveau confinement, total ou partiel. Certains parlent de confinement le week-end. À 7h40, le tête-à-tête Europe Matin avec le professeur Yazdan Pana, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat. Je vais lui demander ce que le gouvernement a entre les mains pour trancher. Mais on ne parlera pas ce matin que de la crise sanitaire sur Europe 1. D'autres sujets à la une, je voulais les évoquer. Les derniers pas de Donald Trump. Il répond au patron de Twitter. Vous l'entendrez dans le journal à suivre. Notre correspondant aux États-Unis. Les mois au Sénégal après la disparition d'une étudiante brillante en France. Nous sommes à Dakar ce matin. Dossier à 8h aussi sur le miracle portugais. Textile, maroquinerie, les entreprises européennes se détournent de l'Asie et la production reprend. On fabrique en Europe à nouveau, vous l'entendrez ce matin. Puis enfin, du football, non pas le PSG Marseille qui se joue ce soir, pas seulement en tout cas, mais aussi cette bombe lâchée par le patron de Canal+ dans le Figaro. Il rend ses matchs à la Ligue et demande un nouvel appel d'offres. En l'état, le foot français n'a plus de diffuseur dans quelques semaines. En réalité, c'est vous dire si la négociation s'annonce tendue. Et si on achetait les matchs à l'unité, tiens, on va en parler dans l'édito sport de Virginie Fulpin ce matin. Voilà quelques éléments du programme. À 6h59, il ne me reste qu'à saluer Laurent Cabrol pour la météo. Bonjour Laurent.
Salut Mathieu. On a beaucoup parlé depuis ce matin de cette autoroute A40 Lyon-Genève avec 2500 personnes bloquées dans la neige. On n'a pas évoqué la Nationale 57 qui va de Besançon à la Suisse et où là encore il y avait énormément de gens bloqués. 130 gendarmes sont intervenus du côté de Fougerolles, de Morteau, de Pontarlier, de Besançon. Vraiment, et on ne compte plus des accidents dans ce secteur des Franche-Comté et des Alpes du Nord. La Haute-Savoie a été levée en matière de vigilance, mais la Savoie persiste. Et puis sur l'Alsace, la Franche-Comté et les Alpes du Nord, eh bien, il neigera encore tout au long de la journée. C'est le point noir, si je puis dire, de cette région et de notre carte de France. Ailleurs, c'est la pluie qui va l'emporter. Je vous en parlerai tout à l'heure, avec quand même des éclaircies sur la Bretagne, la Loire-Atlantique, le Poitou-Charente et la Gironde, du soleil en Méditerranée, mais partout ailleurs de la pluie, disais-je, et notamment en Île-de-France. Les températures maximales sont en hausse. C'est notre consolation. Entre 7 et 12 degrés et 11 à Paris.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez Le Monde Changé. Il est 7h.
Il y a un vrai besoin, on est en Grand Est, on a quand même la région qui a été très très touchée et on est très sollicité par des personnes qui souhaiteraient se faire vacciner de façon dérogatoire, même s'ils n'ont pas l'âge.
Il faut avoir au moins 75 ans pour pouvoir se faire vacciner à partir d'aujourd'hui à Nancy. Les candidats ne manquent pas. Pour le reste de la France, ce sera à partir de lundi. Conseil de défense tout à l'heure et sans doute de nouvelles décisions pour freiner le virus. Les contaminations des enfants sont en forte hausse. On va vous expliquer pourquoi. Nous verrons également si on peut limiter les contaminations dans les écoles, dossier à suivre dans ce journal. Près de 45 000 bornes de recharge pour les voitures électriques à l'heure actuelle, mais toutes ne fonctionnent pas correctement, information Europe 1. Cette nouvelle sanction pour le président américain, YouTube suspend la chaîne de Donald Trump. Et puis, c'est la messagerie dont tout le monde parle, Signal, plus sécurisée qu'au WhatsApp. Elle est aujourd'hui la plus téléchargée en France.
Juste après ce journal, les très bons chiffres de la French Tech, les startups françaises se portent bien, c'est l'éclairage éco de Nicolas Barré, le regard international de Vincent Hervouet et puis ce coup de pression de Canal+, en pleine discussion sur les droits télé du football, l'édito sport de Virginie Fulpin, avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez Le Monde Changer.
9h ce matin, Conseil de défense à l'Élysée, traditionnelle réunion autour d'Emmanuel Macron qui pourrait bien décider de nouvelles mesures face à la hausse des contaminations. Les autorités accélèrent le mouvement pour vacciner davantage. On est actuellement à 190 000 personnes depuis le 26 décembre.
Prochaine étape, les plus de 75 ans hors EHPAD, ils pourront se faire vacciner à partir de lundi. Mais dès aujourd'hui, à Nancy, avant-première dans une ville particulièrement touchée. Bonjour Arthur Mbaché.
Bonjour.
Vous avez pu mesurer la très forte envie, l'attente des habitants vis-à-vis de ce vaccin.
Et il y a une telle attente, une telle impatience que dès hier, avant même donc le lancement officiel ce matin ici à Nancy, eh bien quelques personnes âgées ont profité d'un petit bug de la plateforme de réservation pour se faire vacciner.
Mon mari, il a 82 et moi j'ai 75. Alors ma fille, elle nous a pris rendez-vous parce qu'elle nous a dit, ma fille, il y a beaucoup maintenant de cas, il faut aller vite, oui.
Derrière nous, là, il y a 4 box où la personne peut être vaccinée.
À partir de ce matin, 9 centres de vaccination ici à Nancy. Eliane Abraham est médecin gériatre.
Il y a un vrai besoin, on est en Grand Est, on a quand même la région qui a été très très touchée. Et il y a un vrai engouement de la population pour se faire vacciner. Et on est très très sollicité par des personnes qui disent « je n'ai pas 75 ans » mais qui souhaiteraient se faire vacciner de façon dérogatoire même s'ils n'ont pas l'âge.
Quand vous avez un petit jeune de 74 ans et demi, qu'est-ce que vous faites ?
On lui dit ça va venir très 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 vite. Ce qu'on voudrait, c'est ne pas manquer de doses pour les plus de 75 ans.
Hier, une poignée de reskieurs de moins de 75 ans a tenté de prendre rendez-vous sur la plateforme. Ils se sont fait rembarrer.
Arthur Mbaché à Nancy pour Europe 1 et partout ailleurs en France, les plus de 75 ans pourront prendre rendez-vous par téléphone ou sur Internet à partir de demain.
Mais c'est aussi demain que Jean Castex annoncera les décisions du gouvernement, peut-être un couvre-feu avancé pour toute la France. Nous serons en direct avec l'un des membres du conseil scientifique, Yazdan Pana, à 7h40 tout
et
à l'heure.
Et parmi les données qui inquiètent le gouvernement, il y a les contaminations des enfants en très forte hausse. Deux chiffres, le taux de positivité, il était à 3% il y a moins de 2 semaines, il est aujourd'hui à 10%. Bonjour Victor Delande.
Bonjour Hélène.
C'est un dossier qu'on ouvre avec vous ce matin sur Europe 1. Pourquoi cette forte hausse chez les moins de 10 ans ? D'abord, rien à voir avec la rentrée des classes.
Non, puisque ce sont des tests réalisés pendant le week-end du Nouvel An ou la semaine dernière. Et s'il y a eu plus de résultats positifs, cela veut dire qu'ils ont été contaminés avant, donc pendant la période des fêtes. En revanche, première explication possible, des tests beaucoup plus fréquents chez les enfants, comme l'explique Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches.
Je pense qu'on est arrivé dans une espèce de tournant de politique sanitaire où finalement il y a une sensibilisation à la fois aux tests, il y a une simplicité de la réalisation de ces tests avec les tests antigéniques, ce qui fait qu'on a plus facilement tendance à aller dépister des enfants symptomatiques qu'on ne le faisait avant.
C'est mathématique, plus on teste et plus on a de chances de trouver des cas positifs. Deuxième explication possible, le variant anglais, très contagieux aussi chez les plus petits, est davantage présent sur le territoire que les cas réellement détectés. Enfin, relativisons quelque peu cette flambée chez les enfants. Oui, le taux de positivité a triplé en 10 jours, mais le nombre de contaminations, lui, reste relativement faible. 54 enfants de moins de 14 ans sur 100 000 sont positifs au coronavirus. Ça reste quand même 3 fois moins que dans la population générale.
Alors, quand on vous écoute, on se pose tout de même la question de la propagation du virus à l'école, surtout quand on sait que l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Autriche, les Pays-Bas ou encore le Danemark ont choisi de ne pas rouvrir après les fêtes.
Oui, vous restez avec nous, Victor. On va partir dans la région lyonnaise pour voir comment on gère le protocole sanitaire dans les classes, à la cantine. Notre correspondant Jean-Luc Boujon s'est rendu à l'école publique de Soucy-en-Jarret.
11h30, c'est le premier des 4 services à la cantine de l'école. 70 enfants se mettent à table, puis quittent le masque après s'être lavé les mains. Vu la taille du réfectoire, impossible de les placer en quinconce comme recommandé par le ministère. Ils sont certes face à face pour manger, mais Mélanie Carvalho, responsable du pôle enfance, a trouvé une solution pour éviter le brassage.
On fait manger les enfants par classe et il y a 1 mètre de distanciation sociale entre chaque classe.
Donc là, il y a une classe.
C'est ça, au fond, une classe, 2 au milieu et une plus vers l'avant.
Puis les enfants retournent en cours, là aussi lavage des mains obligatoire, au total 8 fois par jour. Mais les élèves restent quand même 2 par table, il n'y a pas la place pour faire autrement. Et pour que le cours reste interactif, ils continuent d'aller au tableau, explique Agnès Buguet, instit de CM2.
Ils écrivent au tableau numérique, ils touchent le stylet. Après désinfecter le stylet entre chaque enfant, ça demanderait un temps énorme. J'avoue que personnellement, je ne le fais pas. Mais les enfants ne touchent pas leur visage puisqu'ils ont un masque, donc je pense qu'on ne prend pas trop de risques.
Vous avez l'impression que vous faites suffisamment ?
On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a.
En tout cas, le résultat résultat est là, car depuis novembre, depuis que le masque est obligatoire en primaire, il n'y a eu aucun cas positif dans cette école. Soucion Jarret, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
On a entendu cette institutrice, Victor Delande. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Pourtant, vous avez cherché et il existe encore des pistes d'amélioration.
Oui, et la solution viendra peut-être des mathématiques, des équations pour prévoir les déplacements et les contacts potentiels des élèves et des enseignants. Ajoutez à ça les données épidémiologiques et les plans d'établissement. Vous faites tourner le tout dans des grands ordinateurs et vous trouvez la meilleure organisation possible de l'emploi du temps pour limiter les contaminations. Bertrand Maury, professeur de mathématiques à l'Université de Paris-Saclay, nous donne un exemple concret au moment du déjeuner.
On peut étudier des scénarios de type suppression de la cantine, tout simplement, avec pique-nique, ou alors étaler l'ouverture de la cantine, plutôt que d'avoir deux services, avoir trois ou quatre services, par exemple. Donc avec à chaque instant un nombre de personnes moins important, avec évidemment une limitation du brassage, donc qui a priori est de nature à faire baisser le risque.
Autre piste d'amélioration, faire bouger les professeurs de classe en classe plutôt que les élèves, ça limiterait considérablement les brassages. Possibilité aussi d'améliorer les récréations, les flux des élèves. Et ces mathématiciens se tiennent à la disposition du ministère de l'Éducation nationale pour améliorer les protocoles dans les écoles.
Merci Victor Delande. 7h07 sur Europe 1. Si vous avez déjà une voiture électrique ou si vous êtes tenté d'en acheter une, voilà qui va vous intéresser. Le gouvernement avait promis 100 000 bornes de recharge fin 2021. Où est-ce qu'on en est en début d'année ?
Eh bien, selon une étude du cabinet européen Delta, une étude qu'Europe 1 vous dévoile ce matin, on en compte en France près de 45 000 bornes. Seulement, voilà, Aurélien Fleureau, elle ne fonctionne pas très bien.
Oui, parce que si le chiffre de 45 000 pourrait paraître très positif, puisque les derniers décomptes faisaient plutôt état d'une stagnation autour de 30 000, eh bien le problème, c'est la qualité de ces bornes, parfois en panne, et surtout, à peine 7% permettent des charges rapides, c'est-à-dire 80% de la batterie en 30 minutes, et donc l'objectif 100 000 bornes est louable, mais loin d'être gagné, estime Arthur Joigny, qui est responsable du Bureau France chez Delta 2E, un cabinet d'études européen spécialisé dans la transition énergétique.
Nos prévisions voyaient plutôt le chiffre 100 000 arriver vers 2023-2024. Il y a eu des gros partenariats entre industriels et énergéticiens, donc on sent qu'il y a une volonté aussi de l'industrie de faire avancer ça. Mais ça reste très très ambitieux et honnêtement on n'y croit pas trop parce que ça reste quand même un challenge logistique assez gros et il y a aussi beaucoup de bornes de recharge publiques qui ont besoin d'être réparées, d'être changées et ça va poser de gros problèmes pour le chiffre de 100 000.
Heureusement, les bornes à haute puissance vont arriver plus massivement cette année, sous l'impulsion notamment de Legrand, Schneider Electric ou encore Total. Le développement du réseau passera aussi par les entreprises. Selon Delta 2E, 50% des ventes de voitures électriques sont à destination de flotte automobile.
Merci Aurélien Fleureau. Et puisqu'on parle d'automobilistes, ceux qui roulaient hier et cette nuit sur l'autoroute A40 dans l'Ain ont dû affronter une sérieuse tempête de neige, 30 cm sur la chaussée. Quelques 2500 voitures se sont retrouvées bloquées. La circulation a finalement pu reprendre au compte-gouttes. Une centaines de personnes ont dormi dans un gymnase. Un sale temps pour Donald Trump. Non seulement le président américain affronte aujourd'hui une nouvelle procédure d'impeachment lancée par les démocrates, mais en plus, il vient d'apprendre que le site YouTube appartenant à Google suspendait sa chaîne pour au moins une semaine.
Donald Trump, de plus en plus isolé, justement, j'aimerais vous faire écouter cette petite déclaration. C'est en marge de son déplacement au Texas. Hier soir, Donald Trump s'en prend directement au patron de Twitter, Jack Dorsey, qui, vous le savez, l'a définitivement banni.
Big Jack a fait une terrible erreur, très très mauvaise pour notre pays. Ça incite les autres à faire la même chose que lui. Ça crée un tas de problèmes et un tas de dangers. Je n'ai jamais vu autant de haine que ce que je vois aujourd'hui. C'est une chose terrible.
Je n'ai jamais vu autant de haine que ce que je vois aujourd'hui. C'est bien Donald Trump qui le dit.
On va continuer à parler des réseaux sociaux et des messageries. Vous avez sans doute entendu parler de Signal. Signal, c'est l'application la plus téléchargée en France, aux États-Unis et dans une dizaine de pays en ce moment.
Oui, tout est parti des nouvelles règles de WhatsApp qui va désormais partager plus d'informations sur ses utilisateurs avec sa maison mère Facebook. Résultat, une transhumance impressionnante vers Signal. Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour.
Alors vous nous présentez cette application ?
Alors Signal, c'est une application américaine, elle existe depuis 7 ans, visuellement elle ressemble en tout point à une messagerie classique, elle est très simple à utiliser et comme WhatsApp, elle est très sécurisée puisqu'elle est chiffrée de bout en bout, c'est-à-dire que le contenu des messages que vous envoyez sur Signal n'est accessible par personne. En revanche, contrairement à WhatsApp, elle ne collecte pas la moindre donnée personnelle comme l'explique Baptiste Robert, consultant en cybersécurité.
Il y a plein de choses qui sont faisables avec WhatsApp, par exemple. On peut obtenir des photos de profil de WhatsApp de quelqu'un qu'on ne connaît pas, alors que sur Signal, par exemple, c'est impossible sans lui avoir envoyé un message au préalable. Donc il y a des petites fonctionnalités comme ça qui font que la vie privée est bien plus respectée sur Signal que sur WhatsApp.
Autre différence, Signal est une application en open source, c'est-à-dire que son code est entièrement transparent et public. Et puis, la messagerie est financée par une fondation à but non lucratif. Elle est donc gratuite et n'a pas recours aux publicités. Alors jusqu'ici, assez confidentiel, Signal sort de l'ombre, plébiscité publiquement par la Commission européenne, Edward Snowden et même Elon Musk. Résultat, elle reçoit tellement de nouvelles inscriptions en ce moment que ses serveurs ont du mal à suivre.
Clément Le Saffre. Et puis du foot, ce soir, Trophée des champions, PSG et Marseille s'affrontent à Lens à 21h.
Merci beaucoup Hélène Zelani. C'était le journal de 7h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Un nouveau conseil de défense sanitaire se tient donc aujourd'hui avant les annonces de Jean Castex prévues demain soir. À 7h40 en direct, en studio, un membre éminent du conseil scientifique. La question d'un couvre-feu généralisé dès 18h, celle d'un reconfinement. Quels indicateurs épidémiques ce matin, au moment où on se parle? Les hôpitaux, les écoles, le variant anglais. Le tête-à-tête Europe Matin avec le professeur Yazdan Yazdanpana, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat. Tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h14 sur Europe 1, l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
C'est la bonne nouvelle économique de l'année. Vous savez quoi, on va prendre le temps de la savourer. Les bonnes nouvelles, ça fait du bien. Malgré la crise, la French Tech se porte bien et bat des records de levée de fonds.
Bah oui, ces startups françaises ont levé 5,4 milliards d'euros l'an dernier, 400 millions de plus que l'année précédente, alors qu'on était en pleine crise. Il y a eu moins d'opérations, 620 entreprises ont levé des fonds, une centaine de moins que l'année d'avant, mais elles sont plus grosses en moyenne, selon les chiffres réunis par le cabinet EY. Alors des chiffres qui montrent effectivement la vitalité, la résilience de l'écosystème de la French Tech.
Et des chiffres qui nous classent en pole position en Europe.
Devant l'Allemagne, en effet. Alors soyons honnêtes, on est encore quand même loin derrière le Royaume-Uni, où les start-up ont levé plus de 12 milliards d'euros l'an dernier. Mais,
oui,
on
mais
note...
ils sont plus dans l'Europe, alors.
Oui.
Du coup, on est premier en Europe.
C'est vrai, en Europe continentale, on est premier. Mais on note en France plusieurs tendances intéressantes. D'abord, le groupe de ces jeunes sociétés qu'on appelle des licornes, c'est-à-dire celles qui commencent à avoir une belle taille qui valent plus d'un milliard d'euros, ce groupe s'agrandit. On compte une dizaine de sociétés de cette importance en France. Alors, il y a celles que tout le monde connaît déjà depuis un moment et qui font de plus en plus partie de notre vie quotidienne. Doctolib, bien sûr, en première ligne avec la campagne de vaccination. Blablacar, Deezer. Il y a aussi Voodoo dans les jeux vidéo, 300 millions de joueurs dans le monde. OVH, moins connu, mais qui est spécialiste du cloud, qui est une entreprise qui est même considérée à juste titre comme stratégique au niveau européen.
Et petit à petit, ces ex-jeunes pousses prennent de l'ampleur.
Alors c'est une autre tendance qu'on a vue l'an dernier avec une dizaine de levées de fonds à plus de 100 millions d'euros. Miracle, vous connaissez peut-être pas, mais c'est un éditeur de logiciels pour le commerce en ligne qui a levé 256 millions d'euros l'an dernier. Dans un autre genre, Mano Mano, le site de vente en ligne d'objets de bricolage, connaît aussi une très belle croissance. Il vise le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Dans la finance, Lydia, qui est un spécialiste des paiements entre particuliers, qui élargit ses services aux petits crédits à la consommation. Ils ont levé eux aussi plus de 110 millions d'euros l'an dernier. Vous avez Conto, une banque en ligne pour les PME qui a également bouclé un tour de table de plus de 100 millions d'euros. Bref, je pourrais multiplier les exemples. Dans ce paysage de crise que nous traversons, eh bien, vous le voyez, il y a de très belles réussites et un écosystème de la French Tech que nos voisins commencent à regarder avec une certaine envie.
Un écosystème que vous mettez à l'honneur ce matin. Merci Nicolas Barré, il est 7h16 sur Europe 1. Le regard international de Vincent Hervouette. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour Nicolas.
Le secrétaire d'État américain annule son dernier voyage à l'étranger. Mike Pompeo veut soutenir Donald Trump jusqu'au bout.
Ouais, s'il n'en reste qu'un, ce sera Pompeo, le dernier des Mohicans trumpistes. Hier encore, il était dans l'arène pour guerroyer contre les progressistes, les hyènes des médias fake news, au siège de Voice of America. Il a exhorté les journalistes à cesser de dénigrer l'Amérique. Le secrétaire d'État n'était pas le bienvenu sur la radio d'État. Autant imaginer un prédicateur vegan dans une, chez les cow-boys ou dans une
ranch, ouais.
Et une journaliste a tenté de l'interviewer malgré l'interdiction et elle a été mise aussitôt au placard. C'est l'ambiance. Mike Pompeo est dans le monde. Comme dans la jungle, il distribue des coups de main à quelques-uns et aux autres des coups de pied.
Il fait le forcing.
Une vraie diplomatie de la terre brûlée. Prenez le Sahara occidental. Dimanche, les Américains y ont ouvert un consulat donnant raison au Maroc qui a annexé le territoire. L'Amérique enterre ainsi définitivement le plan de paix de l'ONU. Elle accorde soudain à son allié l'appui qu'il attendait depuis 1975, Rabat pavoise, Alger proteste, Pompeo est déjà ailleurs. Lundi, il a remis Cuba sur la liste des États soutenant le terrorisme, un cadeau souvenir aux Cubains de Miami et un bâton dans les roues de ses successeurs s'ils veulent reprendre la normalisation tentée par Obama et qui n'avait rien donné.
Idem avec Taïwan.
Ce week-end, Mike Pompeo a levé les restrictions aux relations avec Taïwan pour ménager Pékin. Les Américains marchaient jusqu'ici sur des œufs, les ministres évitaient de se rendre sur place, etc. Et bien c'est terminé. Dernière cuillerée de la soupe à la grimace que Trump fait avaler à Xi Jinping depuis 4 ans. Et puis avec l'Iran, c'est encore pire. La semaine dernière, Washington a classé les rebelles du Yémen, protégés de Téhéran, comme organisation terroriste. Et hier, Pompeo a carrément accusé Téhéran d'être la nouvelle base d'Al-Qaïda. Ça remonterait à 2015, l'année où les Iraniens négociaient l'accord sur le nucléaire avec les Occidentaux. On voit mal une théocratie chiite protéger des enragés sunnites. Sauf que le numéro 2 d'Al-Qaïda a bien été assassiné l'été dernier à Téhéran. Et Pompeo l'a confirmé. Donald Trump avait commencé son mandat en renouant l'alliance avec Israël et l'Arabie Saoudite. Il a tenu le cap pendant 4 ans. Et Pompeo s'assure avant de partir que ses deux alliés le soutiendront dans 4 ans.
Merci Vincent Hervouette. 7h19 sur Europe 1. À suivre l'édito sport, Virginie Fulpin et Stéphane Bern pour un mot d'histoire.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h21 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Canal Plus restitue ses droits télé de la Ligue 1 à la Ligue de foot professionnelle et demande un nouvel appel d'offres. En gros, la chaîne considère que le produit ne vaut plus grand-chose et veut le payer moins cher. C'est ce qui ressort de l'interview de Maxime Sada, le président du directoire de Canal, au Figaro. Pour vous, Virginie, ça prouve que le football ne peut pas vivre uniquement des droits télé.
C'est-à-dire que là, on se rend bien compte que le diffuseur a le droit de vie ou de mort sur le football français. Et c'est la conséquence de la cupidité de la Ligue en 2018. Les clubs vont payer le prix fort pour avoir cédé au mirage d'un championnat à 1 milliard d'euros et pour avoir fait reposer leur avenir uniquement sur un diffuseur qui s'est avéré mauvais payeur. Aujourd'hui, le vrai patron du football français, en fait, c'est Maxime Sada. Le président du directoire de Canal+ n'a pas digéré la façon dont la chaîne, diffuseur historique du foot, a été traité par la Ligue, donc il ne fait pas dans les sentiments. Son constat est sévère. Le passage éclair de Mediapro a fait perdre toute valeur à notre championnat. C'est dur de regarder les choses en face, mais là-dessus, il a raison. Téléfoot n'a jamais rassemblé beaucoup de téléspectateurs, donc les matchs, soit on ne les voit pas, soit on les regarde en streaming illégal. Notre foot est devenu invisible, donc forcément, il ne vaut plus grand-chose. Pendant ce temps-là, Canal+ a diversifié son offre sportive et ça marche. En fait, le rapport de force s'est inversé. La Ligue a fait comme si c'était les chaînes de télé qui avaient besoin du championnat de France de football pour vivre et s'est comporté en diva, sauf que c'est exactement le contraire qui se produit. À ne compter que sur les droits télé sans se remettre en question à aucun moment, c'est le football qui est à la merci des diffuseurs. Les chaînes font la pluie et le beau temps et en l'occurrence, le temps est plutôt à l'orage.
Alors la principale inquiétude concerne les petits clubs de Ligue 1.
Quand on a un modèle économique qui ne repose que sur le diffuseur, oh surprise, PSG-OM comptera toujours plus qu'un Dijon-Nîmes. Oui, forcément. Et on s'en rend bien compte au détour des phrases de Maxime Sada dans le Figaro. Il parle du manque d'attractivité du championnat. Il dit que la Ligue 1 ne génère pas suffisamment de recettes pour faire vivre tous les clubs. Et sa solution pour éviter l'écran noir entre le moment où Canal+ va rendre ses droits et l'aboutissement du nouvel appel d'offres, c'est le pay-per-view. C'est-à-dire que chacun pourra acheter un match à la demande et l'argent sera ensuite redistribué à la Ligue et donc au club. Ça, c'est une vraie menace pour les petits clubs qui n'ont pas l'audience de Lyon ou du PSG, par exemple. Pour moi, ça prouve qu'on est arrivé au bout du chemin. Si on veut défendre le football français dans son ensemble, on ne peut pas compter uniquement sur les diffuseurs. Ils n'ont pas les mêmes priorités.
Merci Virginie Fulpin, votre édito sport tous les matins sur Europe 1. Il est 7h24. Et nous retrouvons Stéphane Bern pour parler d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Loin de moi l'idée de vouloir concurrencer ce matin le docteur Jimmy Mohamed, mais j'aimerais quand même rendre hommage à la rate.
Oui, je pense que Jimmy ne vous en voudra pas. Il y a donc des expressions en rapport avec la rate, à part j'ai la rate qui se dilate.
Mathieu, vos références musicales m'enchantent. C'est bien de rendre hommage à Gaston Ouvrard. Eh bien oui, prenez par exemple « courir comme un dératé ». Durant l'Antiquité, on était persuadé que la rate était une gêne pour la course. Ainsi, celui à qui on avait ôté la rate pouvait ensuite courir comme un dératé. Le problème, c'est qu'on a longtemps cru la rate inutile. En 600 après Jésus-Christ, une hypothèse sur sa fonction prend de l'ampleur. L'ecclésiaste Isidore de Séville l'affirme « la rate est là pour le rire ». Dès lors, si on la retire, on perd le sens de l'humour. Une nouvelle expression va naître, pour ceux qui l'ont encore et qui peuvent donc rire à gorge déployée, on dit qu'il se dilate la rate. Au XIVe siècle, on abandonne cette croyance pour une nouvelle. Oui, le chirurgien du roi Philippe le Bel l'affirme, selon Henri de Mondeville, la rate est le réceptacle de la mélancolie. Et d'ailleurs, le nom latin de la rate est spleen, en ancien français esplaine, et c'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd pour nos cousins anglais. Ils récupéreront ce mot pour créer le spleen. Ah. Le spleen est donc un anglicisme d'origine française qui a eu ses lettres de noblesse grâce à Voltaire et Baudelaire. Alors aujourd'hui, ayons une petite pensée pour la rate, en vous la souhaitant dilatée, mais pas trop quand même, il faut raison garder.
Même pas une petite recette de cuisine pour se la mettre au courbouillon.
Ça, c'est la rate du Touquet, c'est pas la même.
C'est encore autre chose. Stéphane, on vous retrouve à 16h pour Historiquement Vôtre.
Oui, cet après-midi, Mathieu, on réunit trois personnages qui ont changé de voix. Léon Blum, écrivain et critique littéraire avant de devenir une grande figure du socialisme. Louis Jouvet, il était pharmacien, il est devenu comédien. Et le pape François, qui avant de l'être a été... videur en boîte de nuit.
Non.
Et oui, oui, absolument. Mais en Argentine. Bref, on vous raconte l'histoire sans se la raconter tout à l'heure des 16h avec Mathieu Noël sur Europe 1.
À tout à l'heure, Stéphane.
7h26 sur Europe 1. Laurent Cabrol, la météo dans quelques secondes et un nouveau journal avec Sophie Echen. 7h28 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Danger, attention, en Alsace, Franche-Comté, dans les Alpes du Nord, des chutes de neige ont été très importantes depuis hier après-midi et nous avons donc beaucoup de difficultés, je n'y reviens pas. On en a beaucoup parlé, j'en reparlerai tout à l'heure, sur l'autoroute A40, Lyon-Genève et sur la Nationale 57 entre Besançon et la Suisse. Beaucoup d'accidents, des 2500 personnes dans la neige, enfin bref. Et malheureusement, il va continuer de neiger dans ces régions-là, dans ces départements et dans ces régions, donc si vous pouvez éviter de partir. Hein. Que dire encore ? Eh bien que la neige sera présente dans l'Est, mais c'est la pluie qui sera présente dans les autres régions. De la pluie sur le Nord Picardie, sur Paris, sur la Bourgogne, la Champagne, le Rhône, dans la ville de Lyon, sur la Normandie, le Nivernais, le Berry, l'Anjou, parfois des pluies rapprochées, d'autres, parfois d'autres, des pluies espacées. Pardonnez-moi, je vais trop vite.
Ça glisse.
Je suis pressé.
C'est parce que ça glisse.
Éclairci sur la Bretagne, de l'Atlantique, de Poitou-Charentes et la Gironde, et du soleil en Méditerranée. Les températures sont en hausse entre 8 et 12 degrés. Pardon de toutes ces hésitations, je vous promets, je serai meilleur tout à l'heure.
Tout va bien, on a tout compris, mon cher Laurent. Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour, Sophie Echen.
Bonjour, Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, un nouveau journal, il est 7h30.
Elle était devenue une personne publique et je pense aussi quelque part un modèle pour les jeunes filles surtout qui voulaient réussir notamment dans les études scientifiques.
La disparition d'une étudiante sénégalaise à Paris provoque l'émoi à Dakar jusqu'au sommet de l'État. Tout le pays se mobilise pour retrouver la jeune fille, élève brillante, modèle de toute une génération. Emmanuel Macron défend la gestion de la crise sanitaire et de la vaccination. L'administration fait ce qu'on lui demande, a affirmé le chef de l'État en marge d'une visite dans l'Eure hier. La circulation désormais rétablie sur l'autoroute A40. 2500 automobilistes se sont retrouvés bloqués sur les voies cette nuit. Et puis Michel Sardou à l'honneur dans la comédie musicale « Je vais t'aimer » prévue pour l'automne. Pour l'instant, les producteurs cherchent leur pépite. Europe 1 a assisté au casting.
Juste après ce journal, à la veille des annonces de Jean Castex, on vous donne les clés pour les comprendre. Les recommandations du Conseil scientifique avec le professeur Yazdan Yazdanpana, invité du tête-à-tête Europe Matin. Le match des prétendants pour la présidentielle est lancé. Ça, c'est l'édito politique. Avec Nicolas Bétou. Juste avant Nicolas, Canteloup, qui conseille à sa manière l'invité de la matinale. Aujourd'hui, Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Toujours pas de nouvelles de Diary Sow, cette étudiante sénégalaise en classe préparatoire à Louis-le-Grand à Paris. Elle n'a plus donné signe de vie depuis le 4 janvier. Depuis ce jour, la diaspora se mobilise pour la retrouver en distribuant des flyers, en placardant sa photo dans son quartier de résidence. Importante mobilisation au Sénégal aussi, où la jeune fille de 20 ans est considérée comme un modèle. Margot Chevance.
Dans le village de Malikounda, à 80 km de la capitale sénégalaise, les proches de Diary Sow sont rassemblés dans la maison familiale. Son oncle, Aliou Sow, ne lâche pas son téléphone portable dans l'espoir de recevoir enfin un signe de vie.
Elle appelait régulièrement, tous les jours, soit par WhatsApp ou bien, mais toujours elle donnait de ses nouvelles. C'est difficile. Oncle, tante, maman, grand-mère, nous sommes tous réunis et on se serre la main.
Depuis l'alerte de la disparition de l'étudiante, des prières sont organisées dans le quartier. Ses voisins la décrivent timide, intelligente, appréciée de tous. À travers le pays, il y a les mêmes messages de soutien. Serine Baïtiam était ministre de l'Éducation quand Diary Sow a été élue meilleure élève du Sénégal.
Elle était devenue une personne publique et je pense aussi quelque part un modèle pour des jeunes filles surtout qui voulaient réussir dans les études, notamment dans les études scientifiques. C'est ça qui fait que sa disparition a créé l'émoi.
Diarisso, l'enfant chéri du pays, qui à 20 ans incarne la méritocratie et l'excellence pour toute une génération de Sénégalais. Dakar, Margot Chevance, Europe 1.
Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour disparition inquiétante. Selon les derniers éléments de l'enquête, la piste criminelle est écartée. Il s'agirait d'une disparition volontaire.
Le couvre-feu anticipé à 18h va-t-il être appliqué dans toute la France ? Nouveau conseil de défense sanitaire ce matin, avant la prise de parole hebdomadaire du Premier ministre demain.
Et sur le front de la vaccination, 190 000 personnes ont reçu une première dose, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé. Une accélération justifiée par Emmanuel Macron hier soir en marge de sa visite dans l'heure.
Bonjour Jean-Rémy Baudeau.
Bonjour à tous.
Hors micro, le chef de l'État s'est défendu de toute lenteur dans la gestion de la crise.
Oui, on peut toujours faire mieux, a plaidé Emmanuel Macron devant nous. Mais le chef de l'État invite surtout à la prudence sur le démarrage de la vaccination. On ne compare pas en deux jours quelque chose qui va durer plusieurs mois, assène-t-il. Sur le rythme, Emmanuel Macron se défend. « Je suis le premier à avoir tout poussé pour accélérer, mais au bon moment », précise-t-il, comme pour justifier les critiques qu'il avait émises sur une stratégie qu'il avait lui-même validé. Car les déclarations du président hier soir viennent un peu en contradiction avec la colère mise en scène par l'Élysée dans la presse il y a 10 jours. On avait dit Emmanuel Macron agacé par l'administration. Le voilà qui la soutient. L'administration, elle fait ce qu'on lui demande, affirme le président, qui loue la manière dont l'État a accompagné les entreprises depuis le début de la crise. Emmanuel Macron bien décidé à ne pas laisser dire que la France n'est pas à la hauteur, dénonçant le fonds de commerce, ceux qui critiquent. Le chef de l'État dénonce la posture de l'opposition, je cite, « Ceux qui disent que ça ne va pas assez vite disaient avant qu'on allait trop vite. Nous sommes responsables et ça prend plus de temps qu'un tweet. » Fin de citation.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. Après Twitter et Facebook, YouTube suspend à son tour la chaîne de Donald Trump pour au moins une semaine. C'est d'ailleurs le temps de mandat qu'il reste au président sortant. La plateforme a également supprimé une vidéo du compte de Donald Trump pour cause de risque de violence.
La circulation est désormais rétablie sur l'autoroute A40 entre la Haute-Savoie et l'Ain. La neige et le verglas avaient interrompu le trafic depuis hier.
Un épisode beaucoup plus intense que ce qui était annoncé, avec parfois jusqu'à 2 à 3 fois plus de neige que prévu. Jusqu'à 2500 automobilistes se sont retrouvés bloqués cette nuit. Le point sur la situation ce matin avec Lucie Roche, directrice de cabinet du préfet de l'Ain.
Vers minuit, 1h du matin, les axes secondaires ont pu être dégagés. Et puis, à partir de 2h30, tous les automobilistes avaient pu être dégagés. Il ne reste à cette heure qu'une 60aine d'automobilistes qui ont choisi de passer la nuit dans le gymnase qui a été mis à disposition par la ville de Bellegarde et qui reprendront tranquillement la route ce matin sans doute. Et puis, environ 130 poids lourds qui ont été stockés dans des aires pour les empêcher de prendre l'autoroute et qui vont progressivement être remis en circulation. Donc la circulation sur l'autoroute A40 reste compliquée, évidemment. La neige s'est interrompue, mais évidemment, elle reste présente en abondance. Mais la circulation peut reprendre et on n'a plus à cette heure d'automobilistes coincés dans leur véhicule.
Lucie Roche de la préfecture de l'Ain avec Alain Accot.
Et puis toujours pas de concert, de spectacle. Alors on va se projeter un petit peu avec une grande comédie musicale qui est prévue pour l'automne. Comédie musicale consacrée à Michel Sardou.
Et ça s'appelle « Je vais t'aimer ». Alors pour l'instant, l'heure est au casting car il faut trouver les meilleurs interprètes capables de danser, chanter et jouer la comédie. Pour Europe 1, Angèle Châtelier a assisté à la grande journée d'audition organisée hier au Grand Palais de Lille.
Si vous avez envie de bouger, tout ça, il faut le faire.
Les deux producteurs du spectacle, Michel Sardou, sont installés sur des sièges au milieu de la salle. Ils tiennent dans leurs mains les CV des 40 candidats et échangent des regards selon les prestations, qu'elles soient bluffantes ou décevantes. Ils ont eu 2000 candidatures, mais n'en voient qu'une centaine et en connaissent déjà beaucoup, qui viennent du télécrochet The Voice, d'écoles d'art ou d'anciennes comédies musicales. Mais selon Roberto Suerlo, l'un des producteurs, le répertoire de Michel Sardou, avec ses envolées lyriques, n'est pas à la portée de tout chanteur.
En fait, ce qu'on recherche dans ce casting, ce sont des interprètes qui ne chantent pas du Sardou. À la Sardou, c'est pas ça, mais l'intensité doit être là. C'est tout l'enjeu de ce patrimoine et de ce casting.
Alors avant leur passage, certains candidats chauffent leur voix dans les couloirs. C'est le cas de Manon, 21 ans, qui a fait le voyage depuis Bordeaux.
J'ai donné mon maximum et puis j'espère que ça passera.
Je vais t'aimer est la chanson qui a été la plus interprétée aujourd'hui. Et c'est aussi le nom de cette comédie musicale ambitieuse pour laquelle Michel Sardou lui-même a donné carte blanche.
Quand on fait la Java le samedi à Broadway, ça c'est comme un melon.
Le reportage d'Angèle Châtelier à Lille. Et puis un mot de foot rapidement avec le trophée des champions. Ce soir, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille se retrouvent sur la pelouse de Lens. Coup d'envoi à 21h.
Merci beaucoup Sophie Echen. C'était le journal de 7h30 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Les vaccins, l'isolement des malades, les couvre-feux, on vous l'a raconté. Les élus locaux aussi montent au créneau et n'hésitent de moins en moins à marquer leur désaccord avec le gouvernement à Paris. Les propositions d'un président de région, Renaud Muselier, président des régions de France et de la région Sud, au micro de Sonia Mabrouk sur Europe 1 à 8h15. Mais tout de suite, justement, un conseil de défense a lieu aujourd'hui pour définir une nouvelle politique sanitaire, de nouvelles mesures, la base de travail, les recommandations du conseil scientifique. Yazdan Panache, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat et membre du conseil scientifique, invité du tête-à-tête Europe Matin dans une minute.
Europe Matin, le 7-9.
7h40 sur Europe 1. Demain soir, les annonces de Jean Castex. Ce matin, un conseil de défense sanitaire à l'Élysée. De quels éléments disposent les élus pour décider ? Hier soir, le conseil scientifique a remis ses recommandations au gouvernement. Mon invité est membre de ce conseil, le professeur Yazdan Pana, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Professeur Yazdan Pana, bonjour.
Bonjour.
Le conseil scientifique a donc remis ses recommandations. Hier, elles sont sur la table du conseil de défense sanitaire qui se réunit ce matin. Entre les signaux positifs, les différents vaccins dont on dispose, leur efficacité, le fait qu'en France, on s'en sortirait peut-être un peu mieux que nos voisins, et d'un autre côté, les motifs d'inquiétude, les mutations du virus, on va bien sûr en parler. Est-ce qu'on y voit plus clair ce matin sur la situation sanitaire ?
En fait, ce qui se passe actuellement, comme vous l'avez dit, c'est que, premièrement, on a un niveau de nouveaux cas qui est mieux que les autres pays, mais qui est quand même important. Et au niveau des hospitalisations, on a, pour l'instant, c'est pas une situation de crise du tout, mais on n'a pas beaucoup ou énormément de marge. Donc il faut faire attention à ça. Par ailleurs, on a eu les fêtes, et là, je pense qu'il faut souligner, notamment pendant Noël, on n'a pas eu d'augmentation très importante. Pour le nouvel an, il faut encore attendre un peu. On peut penser que ça peut monter un peu. Et enfin, le troisième élément, c'est le nouveau variant, où la France n'est pas du tout dans la situation de Royaume-Uni. Il y a, on sait maintenant, une circulation de ce virus en France. C'est pas encore très élevé, mais il faut faire très attention et d'anticiper. De l'autre côté, on a des éléments pour lutter contre cette épidémie. On a bien sûr les gestes barrières, il ne faut pas oublier de tester, tracer, isoler, et enfin, on a le vaccin. Et effectivement, il y a un nouveau variant qui va augmenter le nombre de cas.
Aujourd'hui, c'est 1% des contaminations, ce variant anglais. Le profane que je suis, j'ai envie de vous dire, 1%, c'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup, vous avez raison, et il faut le souligner. Par contre, ça veut dire quand même que ça circule et que si on fait pas attention, ça peut augmenter. Ce virus, comme vous le savez, il y a une transmission 50% plus que le virus habituel. Par contre, c'est pas une maladie plus sévère et le vaccin est actif. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que ça va augmenter.
C'est inéluctable. La propagation, la diffusion de ce variant anglais, qu'on soit bien d'accord, c'est inéluctable, on va l'avoir en France et il va se répandre.
Vous savez, c'est comme ça que ça marche entre les différentes souches de virus. Il y en a un qui remplace l'autre quand il est plus transmissible. Donc il est possible que ça se passe. Par contre, le délai, on peut avoir des interventions pour freiner le délai d'apparition de ce virus. Et entre-temps, il faut vacciner parce que le vaccin est efficace contre ce virus.
Parce que le vaccin est efficace contre ce variant. On pourrait poser la question des autres variants, faire pays par pays, mais en réalité, c'est le sens aussi de l'histoire d'un virus. Il mute, celui-ci le remplace, d'autres vont arriver ensuite.
Il y en a d'autres qui vont arriver ensuite. Les mutations, on va en avoir. Alors, premièrement, toutes les mutations ne vont pas être à l'origine de plus de sévérité, de plus de transmissibilité. C'est pour ça qu'il faut surveiller.
Alors, je prends point par point. Pas d'effet spectaculaire des contaminations pendant les fêtes. Ça, d'ailleurs, vous avez l'air de saluer ce qu'ont fait les Français, le comportement des Français dans un premier temps. En tout cas, sur la période des fêtes.
Je pense qu'il faut le souligner, les gens se sont fait beaucoup tester avant Noël pour aller voir...
Non mais ils se sont aussi beaucoup fait taper sur les doigts ces derniers temps. Oui,
mais c'est pour ça que
si vous êtes content des Français, dites-le.
Mais je le dis, ils se sont fait beaucoup tester, ils ont respecté, je pense, parce qu'après Noël, on n'a pas eu une augmentation très importante. Ça augmente un petit peu, ça il faut le souligner, c'est pour ça qu'il faut être vigilant, mais oui, il faut saluer le fait que les gens sont assez disciplinés, il faut le dire.
Et on attend encore quelques jours pour voir l'effet sur les hospitalisations du nouvel an en particulier. L'hôpital, situation qui reste tendue mais qui n'est pas dramatique. Ce variant anglais avec 1% des contaminations, mais on sait que ça va se développer. Alors il y a plusieurs hypothèses sur la table. Est-ce que ce matin le conseil scientifique recommande un nouveau confinement, Yasdan Pana?
Je pense que le conseil scientifique est là pour expliquer la situation, pour dire où on en est, pour dire qu'il faut continuer à respecter les gestes barrières, pour continuer à tester, tracer, parce que ça c'est des armes, même contre le nouveau variant, ça va marcher. Il faut vacciner le plus possible, le plus vite possible. Après, il y a un certain nombre d'hypothèses. Probablement, il faut aller plus loin dans les interventions. Après lesquelles, je pense que c'est une décision qui appartient aux politiques.
Ça, c'est la décision du politique. Il y a le couvre-feu à 18h généralisé. On parle d'un confinement le week-end, éventuellement. Je crois savoir que vous n'êtes pas fan du confinement total, exemple printemps dernier.
Je pense qu'il y a un élément qui est la fermeture des écoles. La fermeture des écoles, les enfants. Il faut savoir que effectivement, ça peut avoir un impact important sur. C'est pas que économique, c'est aussi sanitaire. C'est sanitaire, autre que Covid, notamment sur la santé mentale. Donc du coup, premièrement, ces éléments-là, il y a multiples paramètres, donc, et ça, c'est aux décideurs de juger. Et d'autre part, même sanitaire, il faut penser qu'il n'y a pas que sanitaire, Covid.
Alors, probablement des mesures plus strictes à prendre, disait Jean-François Delfrécy hier soir. Vous me parlez des écoles. Alors là, on a ces chiffres-là qu'on essaye de comprendre. Le taux de positivité des moins de 10 ans qui a été multiplié par 3 ces 10 derniers jours. Vous ne préconisez pas, j'essaie de lire entre les lignes, vous ne préconisez pas de fermeture des écoles.
Moi, je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut faire attention aux écoles. Par contre, bien sûr, la plus facile, c'est toujours fermer. Mais on peut faire des choses. On sait maintenant que le virus se propage le plus quand on mange, on enlève le masque. Donc je pense qu'il faut faire un effort dans les cantines au moment où les enfants mangent parce qu'il y a une transmission. Je pense que, et ça a été dit par le conseil scientifique, il faut faire attention à la sortie des écoles au moment. Donc il y a des choses.
Quand vous dites qu'il faut faire attention aux cantines, ça veut dire qu'on en met certains à table à 11h du matin et d'autres à 14h ou ça veut dire qu'on ferme les cantines?
Non, j'ai pas dit qu'on fermait parce qu'il y a aussi d'autres impacts et je suis pas assez expert sur ça pour dire qu'il faut fermer. Par contre, je pense qu'il faut faire attention. Sur le plan logistique, on peut faire des choses pour essayer d'améliorer et d'éviter ou diminuer la probabilité de transmission.
Est-ce que ce matin, je vais vous poser une question très générale, Yasdan Pana, est-ce que ce matin vous avez des motifs d'espoir?
Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est que maintenant on a des outils. On connaît mieux la maladie et on a surtout le vaccin. Et je pense que ce vaccin, bien sûr, il faut le mettre en place et c'est pas facile de vacciner 30 millions de personnes, 40 millions de personnes. Je pense qu'il est très important de vacciner d'abord, d'ailleurs, ceux qui ont le plus besoin, les personnes fragiles, nos anciens.
Tel que c'est fait aujourd'hui.
Tel que c'est fait aujourd'hui.
Peut-être avec un peu plus de volume.
Il faut le faire le plus vite possible. Et je pense qu'on a cet horizon. Je pense qu'on a encore quelques mois à passer. Et après, on verra la lumière. Je pense que c'est très important de rappeler parce que il y a un moment dans cette crise, on voyait pas la lumière. Là, la différence, c'est que on a peut-être la lumière au bout parce qu'on a des outils maintenant qui nous permettent.
On voit le bout du tunnel parce que le vaccin est là. J'essaie de lire entre les lignes. On est, avant d'autres décisions, sur une course de vitesse entre la vaccination, aller le plus vite sur les vaccins et la propagation du variant anglais notamment.
Il y a une course. Parce qu'il y a un nouveau variant et il y a le vaccin, mais je pense qu'effectivement, il faut vacciner le plus tôt possible, et surtout nos anciens.
Et à terme, on pourrait se passer de mesures de type confinement, Yasdan Pana?
Alors, j'ai pas dit ça tout de suite, parce que c'est un ensemble, mais en tout cas, le vaccin va beaucoup nous aider. Pour qu'on se passe de ça, il faut qu'il y ait une immunité collective, ou une immunité importante chez les personnes fragiles. Ça, c'est pour un peu plus loin, mais en tout cas, ça va nous permettre d'arriver à ça.
Les auditeurs d'Europe 1 ce matin ont entre leurs mains les mêmes éléments que le Conseil de défense sanitaire aujourd'hui, qui doit réfléchir et trancher avant les annonces de Jean Castex demain. Professeur Yazdan Yazdanpana, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat et membre du Conseil scientifique, merci d'être venu nous éclairer ce matin. Il est 7h48 sur Europe 1. À suivre l'édito politique, Nicolas Bétou, avant de retrouver Nicolas Canteloup juste avant 8h. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h51, l'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Nous sommes à environ 500 jours de la prochaine élection présidentielle. Et selon vous, le match est lancé ?
Celui des prétendants, oui, à gauche comme à droite.
Alors on va commencer par la gauche, si ça vous va.
Parfait. C'est d'ailleurs là qu'ils sont le plus nombreux à se dévoiler en ce moment. Alors il y a bien sûr Jean-Luc Mélenchon, lui a déjà officiellement lancé, il y a 2 mois, sa troisième tentative de conquérir l'Élysée. Il y a aussi Yannick Jadot, qui rêve de représenter les écologistes comme candidat à la magistrature suprême, et qui fera tout, contrairement à la fois précédente, pour ne pas se désister en faveur de la ou du candidat socialiste, avant même d'avoir combattu. Et justement, c'est du côté du PS que ça frémit le plus. Anne Hidalgo ne cache plus ses intentions en la matière. Elle, qui bottait prudemment en touche juste après sa victoire au municipal, franchit désormais méthodiquement une marche après l'autre à chacune de ses interviews, installant tranquillement l'évidence de son ambition. Elle met son dispositif en ordre, ses amis en ligne et ses idées en commun. Idées en commun, c'est le nom de l'association qui devrait porter sa démarche. C'est sûr, sa candidature avance plus vite qu'une voiture dans les embouteillages parisiens. Il y a d'ailleurs un signe qui ne trompe pas. La fréquence des attaques qu'elle subit désormais de la part de plusieurs ministres d'Emmanuel Macron, on a bien conscience, dans la majorité, du danger potentiel que représente la maire de Paris.
Et vous disiez qu'ils sont nombreux à gauche à penser à l'Élysée, il y en a donc d'autres ?
Alors si je mets de côté les usual suspects de l'extrême gauche, si je mets aussi de côté le Parti communiste qui se tâte sur le thème Mélenchon or not Mélenchon, that is the question, il reste un prétendant sérieux à la compétition, c'est Arnaud Montebourg. Il a échoué 2 fois à une primaire de gauche. Bon, cette fois, s'il y va, ce sera en direct et sous ses propres couleurs. Ses amis viennent cette semaine de créer une structure pour recevoir les financements et il se donne quelques semaines pour tester la réalité de ses chances sur un axe souverainiste de gauche. Vous le voyez, en tout cas, le dispositif à gauche se met en place.
Et à droite ?
Ben là aussi, c'est en train d'évoluer. Les Républicains ayant décidé qu'il n'y aurait de procédure de départage, c'est-à-dire de primaire entre candidats de droite, que si personne ne s'imposait naturellement d'ici à l'été, Xavier Bertrand a lancé la phase qui doit le rendre incontournable dans les 6 mois. Il multiplie les interventions médiatiques, durcit le ton contre Emmanuel Macron et son gouvernement et tente de renouer avec les Républicains, le parti qu'il avait quitté il y a 3 ans. Son défi, dans la course à l'Élysée, se crée un large espace politique entre En Marche et le Rassemblement National. Oui, parce que, bien sûr, personne n'en doutait, Marine Le Pen sera pour la 3e fois candidate à la présidentielle. Là, aucun mystère et pas besoin pour elle de s'agiter pour le faire.
Votre édito, tous les matins, dans Europe Matin, juste avant 8h. Merci Nicolas Bétou. Et c'est Nicolas Canteloup que l'on retrouve à présent qui, comme tous les jours, conseille à sa manière l'invité de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Renaud Muselier, président du Conseil Général de la Région Sud et président des Régions de France. Et tiens, c'est Éric Ciotti qui est venu dire un mot à son ami.
Oui, bonjour Monsieur Béliard, Monsieur Bétou, bonjour. J'ai noté que c'est certainement un oubli. Monsieur Bétou a oublié de me citer comme prétendant
pardon,
à la fonction suprême. Bref, ce n'est pas mon propos. Je n'ai pas beaucoup aimé, je dois vous le dire, la déclaration de Renaud Muselier à propos de Jean Castex.
Ah voilà. Oui, Renaud Muselier a dit, je cite, sa confiance totale envers son ami Jean Castex à l'occasion de sa visite à Toulon.
Oui, c'est parce qu'il était à Toulon, Jean Castex, que Renaud Muselier a dit du bien de lui. Mais dès qu'il aura le dos tourné, croyez-moi, nous allons le défoncer. Mais j'ai peur que Renaud, dans un esprit de solidarité méridionale, oublie complètement de redire à votre micro dans 20 minutes, même que pas. Le gouvernement n'a rien fait.
Bon, c'est pas vrai. 5000 doses de vaccins ont été livrées à l'hôpital de Nice.
Mais 5000 doses, mais c'est bien ce que je dis. 5000 doses à Nice, déjà pour les jeunes, 5000 doses, c'est beaucoup trop. C'est moins 4992 doses de trop. Mais par contre, pour mes vieux, il en manque au moins 300 000. Je vous le redis, le gouvernement ne fait rien.
C'est signé Nicolas Canteloup qui conseille l'invité politique de la matinale tous les jours, juste avant 8h. Merci Nicolas, on vous retrouve à 8h45 pour la revue de presse. À 8h15, ce matin, Renaud Muselier, président des régions de France et président de la région Sud, au micro de Sonia Mabrouk. À tout de suite. 7h59 sur Europe 1, nous sommes avec Laurent Cabrol, c'est l'heure de la météo.
Et la neige, l'Alsace, la Franche-Comté et les Alpes du Nord sont sous la neige avec des difficultés de circulation. On l'a dit, il y a presque 3000 automobilistes qui ont été bloqués et parfois le sont encore. La Haute-Savoie, la vigilance est levée, mais en Savoie, elle est maintenue. Voilà pour la neige. Attention, je profite pour dire que demain, il neigera également dans ces régions. On n'est pas sorti de l'auberge. La pluie sur le Nord Picardie, la région parisienne, la Bourgogne, la Champagne, le Rhône. Donc sur Paris et sur Lyon, bien, ce sera très humide aujourd'hui, pour ne pas dire souvent pluvieux. De la pluie espacée cette fois sur la Normandie, le Nivernais, le Berry, l'Auvergne, la vallée de la Garonne et la vallée de la Loire, bon, presque sec ce vallée de la Loire, éclaircie sur la Bretagne, la Loire-Atlantique, le Poitou-Charentes et la Gironde, et du soleil en Méditerranée avec du vent fort, 70 à 100 km/h. Les températures maximales, elles sont douces, relativement douces. 6 à Lille, 7 à Nancy, 9 à Limoges, 10 degrés à Toulouse, 11 à Paris et Nantes, 12 à Rennes, 13 à Marseille et 15 degrés en Corse.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez le monde changer. Il est 8h.
Un commerçant, s'il est fermé, c'est dramatique. La ville se meurt, les rues s'éteignent, c'est la catastrophe.
Comme le disait Francis Palombi, patron des commerçants de France, ce matin sur Europe 1, le risque est d'ordre vital pour tout son secteur en cas de nouveau confinement. Les informations du service politique sur les nouvelles restrictions sanitaires qui se préparent et notre enquête chiffrée sur les conséquences d'un éventuel couvre-feu durci et généralisé. Dans ce journal, un miracle économique, celui du Portugal, qui a su reconquérir l'industrie de l'habillement malgré la concurrence asiatique, c'est notre dossier. Et puis le loup, Blondinet, Petit Gros et Petite Chèvre, quelques-uns des surnoms des 355 accusés dans le méga procès de la mafia calabraise, après l'enquête d'un procureur de 62 ans qui en a passé 30 sous protection policière.
Couvre-feu, reconfinement, mais aussi état des lieux de l'épidémie en France et déploiement de la vaccination. Les élus locaux donnent de la voix. Renaud Muselier, président des régions de France et président de la région Sud, répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est mercredi, c'est Conseil de défense sanitaire, vous connaissez la musique. Ce moment de la semaine où l'on se demande quelles restrictions vont s'ajouter à notre quotidien. Et même si la France s'en sort plutôt bien en ce moment par rapport à ses voisins, la troisième vague semble prête à monter.
Louis Dragnel, vous avez des informations sur le calendrier des décisions à venir et sur la teneur des discussions au sommet de l'État.
Les annonces devraient se faire en deux temps. Tout d'abord, avant demain soir, le gouvernement hésite encore entre plusieurs hypothèses, parmi lesquelles la possibilité d'élargir le couvre-feu à 18h sur tout le territoire et une autre option, couvre-feu pour tous à 18h et reconfinement locaux le week-end. Ensuite, dans un second temps, c'est-à-dire dans une quinzaine de jours, le temps d'avoir des nouvelles données actualisées sur le virus et surtout des projections sur le variant du coronavirus. Vous savez, ce variant venu d'Angleterre et d'Afrique du Sud, eh bien, le gouvernement n'exclut pas un reconfinement. Une certitude, la situation sanitaire n'est pas très claire ce matin. Les données épidémiques des vacances de Noël ne sont pas jugées catastrophiques. Nous restons sur un plateau très haut. Et en même temps, la perspective de la diffusion du variant inquiète les plus hautes autorités sanitaires, à commencer par la Direction générale de la Santé, qui a appelé dans une note confidentielle rédigée en début de semaine à un reconfinement dur. Politiquement, le sujet est sensible. Après le retard des masques et des vaccins, le gouvernement ne peut plus se permettre de tergiverser ou de prendre de mauvaises décisions.
Louis de Ragnel du service politique d'Europe 1. On comprend donc que la piste d'un couvre-feu généralisé à 18h est bien sur la table avec un possible confinement le week-end.
Bonjour Élise Dangean.
Bonjour.
Ce serait moins radical qu'un reconfinement 7 jours sur 7, mais le retentissement économique serait tout de même très fort.
Oui, et je peux vous dire que depuis 24 heures, tout le monde sort la calculatrice, à commencer par la grande distribution. Et pour cause, le créneau 17h30-20h est stratégique. Il représente un tiers de nos courses alimentaires. Alors évidemment, le réfrigérateur ne va pas se remplir tout seul, il va y avoir un report en journée, entre midi et 2, mais surtout le samedi. La grande distribution appelle donc à l'ouverture généralisée de ses magasins le dimanche pour désengorger ses rayons.
Oui, alors ce phénomène de report, on l'imagine bien effectivement pour l'alimentation, mais c'est peut-être moins évident pour d'autres types de consommation.
Absolument. Prenez le secteur de l'habillement par exemple. Selon sa fédération, le couvre-feu généralisé lui ferait perdre 25 à 30% de son chiffre d'affaires. C'est énorme. Et ça pourrait même grimper à moins 40% dans les zones en dehors des centres urbains. Car là, pas de pause shopping entre midi et 2. Dans tous les cas, rappelle Damien Deforest, directeur général de la chaîne CEA, tout dépendra du scénario choisi par le gouvernement.
Par rapport aux magasins qui sont déjà dans l'obligation de fermer à 18h, nous avons déjà une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 15 à 20%. Si cette décision venait à être étendue sur l'ensemble du territoire français, sur les grandes métropoles, on partirait plutôt sur de l'ordre de moins 25 à moins 30% de chiffre d'affaires. Un confinement le week-end nous entraînerait obligatoirement une perte de chiffre supplémentaire et on peut tabler sur l'ordre de moins 40%.
Alors on comprend bien que ce créneau 18h-20h, Élise, c'est capital pour beaucoup de commerçants.
C'est ça, les buralistes par exemple sont unanimes, c'est le plus gros du boulot. Gérard Athéa est le gérant du bureau de tabac Le Terminus à Paris. En temps normal, il ferme à 1h du matin et il a déjà perdu 40% de son chiffre d'affaires avec le couvre-feu à 20h. Maintenant, il craint le pire.
Là, pour être à 18h chez eux, tous ceux qui sont en voiture, bah déjà, ils s'arrêteront pas. Parce que, vu les trafics, vu les bouchons, ils vont partir de bonne heure où ils font du télétravail. Et puis, bah, ils vont plutôt faire leurs courses pour acheter à manger ou leur pain ou les tabacs. Et puis, bon, on perd aussi du jeu, parions sportifs, parce que les gens, bah, tous les joueurs aiment bien jouer à la dernière minute pour savoir les compensations des équipes. Donc ça impacte beaucoup le monde. Du coup, là, c'est un des gros tabacs de France et je deviens un petit tabac de quartier.
Un manque à gagner aussi pour la Française des Jeux et donc in fine pour l'État. Vous l'aurez compris, c'est le serpent qui se mord la queue.
Alors, je voudrais souligner ces chiffres que vous donnez ce matin, Élise Dangean, sur Europe 1. Un tiers de nos courses alimentaires se font après 17h30. 40% de baisse de chiffre d'affaires redouté dans le secteur de l'habillement s'il y avait un confinement le week-end.
Et alors qu'on discute couvre-feu, le groupe canadien nommé Couche-Tard a des vues sur le français Carrefour qui reconnaît avoir été sollicité. On parle d'un projet de fusion amicale. Couche-Tard, c'est un dépanneur, comme on dit au Québec. Une supérette, ou plutôt un réseau de supérettes, ouverte tard le soir et souvent dotée de pompes à essence.
Et puis cette information Europe 1 qu'on vous donnait dans le journal de 7h, on en est désormais à 45 000 bornes de recharge pour les voitures électriques sur un objectif de 100 000. 45 000, mais 7% seulement permettent une recharge rapide.
Alors, au milieu de ces difficultés, on s'accroche aussi aux méthodes qui marche. Et c'est pour ça que nous avons choisi ce matin de regarder du côté du Portugal, un pays qui avait été délaissé économiquement au profit de l'Asie, mais dont le carnet de commandes aujourd'hui est en train d'exploser.
Bonjour Claudia Bertram.
Bonjour à tous.
Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 dans la région de Porto. L'une des raisons de ce retour en forme, c'est que le consommateur européen est devenu très vigilant sur l'aspect responsable de ses achats.
Absolument, et c'est le patron de Jonac lui-même qui nous le dit. Depuis 20 ans, cette marque française fait produire 80% de ses chaussures ici, à quelques kilomètres au sud de Porto. Une proximité qui présente bien des avantages pour Marcel Nakam.
On peut produire de faibles quantités, prendre de l'information auprès des clientes et donc de réassortir en conséquence. On n'a donc pas de gaspillage. La contrainte écologique aujourd'hui est une contrainte de taille. Produire à proximité du lieu de distribution est un point assez important, plutôt que d'organiser du transport en bateau, en avion, du grand import.
Autre avantage, plus de transparence qu'en Chine, aussi bien sur la production que sur les conditions de travail, par exemple.
Ceci dit, a priori, ça coûte quand même beaucoup plus cher qu'en Chine.
Oui, même si le coût de la main-d'œuvre est ici trois fois moins cher qu'en France pour un savoir-faire qui n'a rien à voir avec la Chine. Je me suis rendue dans l'usine où sont fabriquées les chaussures pour Jonac, une entreprise familiale à taille humaine. Et de la semelle au lacet en passant par le cuir, c'est un savoir-faire traditionnel et manuel à chaque étape de la fabrication, comme l'assemblage de cet escarpin que nous décrit le responsable de la production, Eric Cazan.
Elle positionne le dessus de la chaussure avec la doublure, l'intérieur. C'est délicat quand il faut que tu positionnes bride après bride. Et que ce soit parfait et qu'il n'y ait pas de recoupe à faire, il faut une habitude de travail.
Et pourtant, il faut être clair, hein, ce miracle a failli ne jamais avoir lieu. Le textile au Portugal, c'était quasiment fini il y a 15 ans.
Oui, et Mario Jorge Machado en sait quelque chose. Il est le président de la plus importante association de textile du pays. Je l'ai rencontré dans son usine cette fois-ci. On est au nord de Porto et sur 25 000 mètres carrés, des machines modernes tournent à plein régime. Mais avant d'en arriver là, comme beaucoup, il a subi de plein fouet l'émergence des marchés asiatiques.
Ils ont bouleversé le marché. Nous avons perdu environ 30% de nos clients. Et ceux qui ne sont pas partis ont réduit leurs commandes. Nous avons réduit nos effectifs Et puis nous nous sommes développés à nouveau. Après 2009-2010, des marques se sont rendues compte qu'elles étaient trop dépendantes des pays asiatiques.
Et aujourd'hui, ils comptent près de 600 clients dans 54 pays à travers le monde.
Au Portugal, ce matin, le reportage, le dossier de l'envoyé spécial d'Europe 1, Claudia Bertram.
L'Italie, elle, adopte un méga plan de relance mais risque la crise politique. 223 milliards d'euros, chez nous c'était 100 milliards, 223 très largement financés par l'Europe, mais deux ministres se sont abstenus et pourraient démissionner avec dans ce cas de possibles législatives anticipées.
Cette fois, c'est YouTube qui bloque Donald Trump, la plateforme de vidéos détenue par Google qui évoque un problème d'incitation à la violence. Donald Trump, qui était hier soir au Texas pour vanter son bilan et qui a critiqué les procédures de destitution que veulent lancer les démocrates.
C'est vraiment la suite de la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire de la politique. C'est complètement ridicule. C'est terrible ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, Donald Trump, au pied de l'avion, vous l'aurez compris, au Texas.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant. Plus puissante que Cosa Nostra et que la Camorra, le procès de 355 mafieux de la 'Ndrangheta qui démarre aujourd'hui en Calabre. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h10 sur Europe 1, la suite du journal. François Geffrier.
50 milliards d'euros, c'est le chiffre d'affaires de cette entreprise multinationale qu'est la 'Ndrangheta, la mafia calabraise. Elle subit un méga procès aujourd'hui. 355 accusés, dirigeants politiques, fonctionnaires de police, hommes d'affaires. Jean-Sébastien Soldani, c'est tout un système qui sera jugé.
Sur la liste des accusés, il y a Petit Gros, Blondinet, La Chèvre, une litanie de surnoms dont seul le milieu a le secret est déjà égrené lors d'une audience préliminaire. Cela a pris 3 heures au total, uniquement pour décliner toutes les identités. Un réseau si vaste qu'il étend ses tentacules bien au-delà de la péninsule italienne. Trafic de drogue, racket, homicide, tout l'éventail des crimes et délits semble couvert. Et certains avocats de la défense en jouent. Ils estiment que, dans ces conditions, il est impossible de garantir un procès équitable à chaque accusé. Mais Fabrice Risoli, spécialiste du crime organisé, l'affirme, difficile de faire autrement.
Vous voulez qu'on les arrête pas ? Je suis pas certain qu'il ait fait exprès, le procureur Gratteri. Quand il commence ses enquêtes, en tirant le fil, il trouve énormément de complices de mafieux. Il faut comprendre le système pénal italien, qui est quand même des plus aboutis de lutte contre la mafia, pour comprendre qu'ils ont les meilleurs outils juridiques au monde.
Aux commandes de cette vaste enquête, il y a le procureur Nicola Gratteri Calabrais. Lui aussi, il jouait au foot dans sa jeunesse avec ceux qu'il tente aujourd'hui de faire condamner. Un engagement qui lui vaut d'être sous escorte policière depuis plus de 30 ans.
Jean-Sébastien Soldaini, saurez-vous deviner quel sport était en train de commenter Julien Froment et Jean-François Pérez le 13 septembre dernier ?
Et il y a bagarre, ça y est, allez, c'est parti, Kung Fu. On n'a vraiment pas besoin de ça, et Paredes là qui va... front contre front.
Avec Germain.
Avec Valère voilà, Germain.
C'était bien du football, mais 14 cartons jaunes, 5 rouges, un mauvais PSG-OM, bagarre et accusation de racisme.
Et ce soir, bah, tiens, comment on se retrouve ? Le trophée des champions, avec les mêmes adversaires. Le gardien parisien Keylor Navas promet que la leçon est apprise.
Ce qui s'est passé au précédent match, ce n'était pas que du foot. Mais l'équipe s'est bien préparée pour combattre, on a retenu la leçon. On va essayer de gagner en jouant au football et en étant supérieur. On ne doit pas commettre les mêmes erreurs.
Allez, promis, ce sera du foot. PSOM, 21h ce soir, Félix Bollard à Lens.
Merci beaucoup François Geffrier, c'était le journal de 8h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et c'est l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ils montent au front et pressent le gouvernement sur les vaccins. Les présidents de région sont très critiques. Alors est-ce en fonction de la couleur de leur étiquette politique comme le dénonce Olivier Véran ? Sur ce sujet et d'autres, la réponse ce matin du président de la région Sud et aussi patron LR des régions de France, Renaud Muselier.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1. L'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Renaud Muselier, président des régions de France et président de la région Sud.
Bienvenue à vous et bonjour Renaud Muselier.
Bonjour.
Il y a une semaine, vous estimiez, je cite, que nous étions ridicules sur la vaccination. Est-ce que depuis le changement de stratégie, votre avis a évolué ?
On s'est amélioré très, très, très nettement. Je me permettrai de vous rappeler que c'est le président de la République le premier qui a dit qu'on était beaucoup trop lent et qui a tiré la sonnette d'alarme. C'est le professeur Axel Kahn, qui, lui, ne fait pas partie du conseil scientifique, mais qui a dit attention. Et nous, les régions de France, qui avons demandé à Monsieur Véran, nous avons fait des offres, des propositions d'action dès le mois de novembre, bon, on constatait que nous étions les derniers de la classe, ou presque, au niveau européen. Donc aujourd'hui, le Premier ministre, et j'ai dit derrière, que je faisais confiance au Premier ministre, il a fixé la ligne d'un million, la stratégie a évolué.
Un million à la fin du mois, est-ce que c'est réaliste ? Parce que là, nous sommes autour de 190 000 vaccinés, 400 000 d'ici peut-être à la fin de la semaine, et le million à la fin du mois de janvier.
Le tenable. Million, ça me fait penser à un jeu, on n'est pas en train de jouer malheureusement.
Bien sûr.
Ça fait, on veut dire qu'on est le 11, 12, 13, il faut 60 000 par jour pour arriver à la fin de l'année, à la fin du mois, on doit pouvoir y arriver. Mais très honnêtement, c'est un jeu un peu particulier. Les Anglais vont faire 10 millions en un mois. Nous, on a fait 50 000 en 10 jours. Maintenant, on est monté à 200 000. On sera à 1 million à la fin du mois. Regardez, nous avons un Français sur deux qui veut se faire vacciner, à peu près. On est 66 millions de Français. Ça veut dire qu'il y en a 33 millions qui doivent être vaccinés. Si on a 1 million par mois, ça va nous faire 33 mois.
Très
donc,
bon.
Il faut changer de rythme.
D'accord, on est bon en mathématiques. Mais Boris Vian disait, Renaud Muselier, la critique arrêtée ne se doit d'être constructive. Qu'est-ce que vous proposez ?
Mais accélérer, sortez, débunkériser le ministère de la Santé, appuyez-vous sur les forces locales, appuyez-vous sur les mairies, sur les départements, sur les régions, appuyez-vous sur nos maisons de santé, appuyez-vous sur les pharmaciens qui ont la logistique, appuyez-vous sur les médecins généralistes, appuyez-vous sur les pompiers. Nous avons des propositions, nous avons fait des propositions, nous souhaitons faire en sorte que nous pouvons faire des cars itinérants qui vont de village en village dans les zones reculées. On peut s'appuyer sur la logistique des pharmaciens. On a la capacité de vacciner la totalité dans nos personnels régionaux, ceux qui sont en charge dans les lycées, ceux qui sont en charge dans les universités.
Mais entre ce que décrivent Renaud Muselier et les présidents...
Vous me demandez des propositions, je vous en fais.
Bon, et vous en avez fait surtout au gouvernement. Mais entre ce que décrivent les présidents de région et ce qu'affirme le gouvernement, il y a souvent un fossé énorme. Selon le ministre de la Santé, vous... Les présidents de régions d'opposition, vous faites de la politique politicienne. On va écouter Olivier Véran, c'était ce dimanche au grand rendez-vous européen CNews Les Échos. Il répond notamment aux questions de Michaël Darmon.
Pourquoi ne pas s'appuyer sur les propositions des élus ?
Je ne sais pas, Michaël Darmon, si les élus sont en campagne ou s'ils ne le sont pas.
Vous pensez qu'ils sont plus en campagne électorale qu'en campagne
ouverte,
de vaccination?
Certains présidents de régions sortants qui sont dans l'outrance, certains maires de grandes villes qui sont peut-être dans l'idée ou l'espoir ou le fantasme d'une campagne et qui en profitent pour se faire un coup de com'.
Que lui répondez-vous? Il parle de vous?
Moi, ma campagne, c'est de réussir la vaccination. Deuxièmement, donc ça, mettons-le de côté, c'est ça mon objectif. Parallèlement à ça, M. Véran, il a quand même une mémoire très sélective.
C'est-à-dire
tout ce qu'il fait est remarquable et tout ce que font les autres, c'est toujours pas bien au mauvais moment. Je me permets de rappeler les errements de M. Véran sur les masques. Il n'y en avait pas et donc il nous a expliqué qu'il ne fallait pas le porter. Il a dit que de toute façon, il allait faire les tests. On ne les a pas fait. Il a dit parallèlement à ça qu'on allait éviter le deuxième confinement. On l'a eu. Et il est en train de dire la même chose pour le troisième.
Et pourquoi vous le visez lui précisément à... Il est bien sous l'autorité du Premier ministre Jean Cassex, à qui, Renaud Muselier, vous avez dit toute votre confiance totale.
Exact.
Mais alors?
Mais je m'entends très bien. Regardez ce qu'on a fait dans la première vague.
Mais c'est la politique
zéro polémique.
Première vague,
zéro polémique. Nous avons, nous, les régions de France, fourni 130 millions de masques, 500 millions d'euros sur le Fonds de solidarité nationale, 1,7 milliard dans le cadre de la gestion pour les terrasses, les cafés.
Personne ne le conteste.
Sauf que M. Véran l'oublie. On n'était pas en campagne. On est en action, on est à la manœuvre, on était souple, on était agile, on était efficace, on était déjà en difficulté avec le ministère de la Santé. Nous étions partis dans la logique d'un zéro polémique. Parce que cette pandémie, personne ne savait trop bien la traiter, etc. Enfin, il ne va pas nous faire le coup sans arrêt d'arrêter tout débat démocratique comme il a osé le faire à l'Assemblée nationale quand il a
mais
dit aux parlementaires.
Mais qu'est-ce que vous lui reprochez au juste? Finalement, vous avez dit, Renaud Muselier, vous avez
dit aux parlementaires, vous n'êtes pas content, vous sortez dans un hémicycle de démocratie quand même.
Mais vous avez dénoncé un ministère de la Santé comme un État dans l'État. Est-ce qu'il aurait pris l'ascendant aujourd'hui, le ministre de la Santé? Puis sur qui?
Non, le ministre de la Santé fait en sorte que nous sommes dans un schéma où on est contraint par une démarche où vous avez un ministre de la Santé qui a son propre budget, son propre école de formation, ses propres nominations, et ils se nomment tous entre eux. C'est peut-être très bien quand ça fonctionne.
Vous avez connu ça, vous avez été ministre aussi. Malheureusement,
enfin,
c'était une spécificité française. Non, mais bien sûr,
donc, j'étais aux affaires étrangères, j'étais médecin.
Je dis malheureusement, c'est le mal français.
Ouvert. Même les affaires étrangères étaient ouvertes, alors que le ministère de la Santé s'est bunkérisé. Nous sommes dans une guerre, le président de la République l'a dit. C'est pas une guerre de tranchées comme l'organise le ministère de la Santé, c'est une guerre de mouvement. Dans ce guerre de mouvement, il faut aller vite, il faut être efficace.
Il faut une opération blitzkrieg.
Pardon ?
Il faut une opération blitzkrieg sur la vaccination encore plus vite, selon vous ?
Mais bien entendu, si nous voulons arriver à avoir 10 millions par mois de vaccins, de vaccination, il faut s'appuyer sur toutes les forces vives de la région, de départements, des municipalités, des médecins, des pharmaciens, des infirmières, s'appuyer sur les sapeurs-pompiers, sur les pompiers, sur l'armée, pour démultiplier à l'infini 10 millions, il faut qu'on en fasse par mois. Sinon, on va en mettre
30 millions par
mois.
Et en même temps, monsieur le président de la région Sud, pour casser la dynamique aujourd'hui de la propagation du virus et la menace, évidemment, des variants. Est-ce qu'il faut reconfiner tout de suite, malgré les conséquences, ou alors y aller progressivement avec un couvre-feu, notamment, justement, dans votre département, à 18h?
Revenons-en à des critères simples. qui ont évolué sans arrêt depuis près de 10 mois. Taux d'incidence, on est passé de 50 à 250, maintenant on est à 200. Donc moi je demande à ce qu'on mette toujours le même critère. Moi je suis pour la territorialisation, donc la France n'est pas traitée de la même manière. Il nous faut un taux d'incidence basé sur la base de 250, quand on est au-dessus on ferme. Avec un taux d'incidence au-dessus de 1, nous on est à 0,6, au-dessus de 1 on ferme. Et avec bien entendu le taux en réanimation qui est à 65%.
Là c'est le médecin urgentiste qui parle ?
C'est le bon sens médical. Mm-hmm. On a quitté la médecine dans cette histoire. On a oublié
on a
la, médecine.
La médecine.
On ne fait plus de médecine.
Mais on ne regarde que cela, justement, que ce qui se passe dans nos hôpitaux.
On est en train de nous expliquer qu'il faut tester, vacciner. Excusez-moi quand même, entre-temps, il y a des gens qu'il faut soigner. Donc, et les soins ont fait énormément de progrès. Aujourd'hui, on met de l'oxygénothérapie.
C'est vrai qu'on ne parle pas des traitements. D'ailleurs, c'est un angle mort aujourd'hui dans
la médecine,
les débats.
C'est de la médecine, c'est les soins. Les milliers, les centaines de milliers de médecins en France, ils soignent. Or, ils ont fait des progrès, ils ont fait des progrès en réanimation. Et on voit bien d'ailleurs que dans les progressions du nombre de patients qui sont covidés, on a aujourd'hui moins, beaucoup moins d'entrées en réanimation. Parce que la médecine a fait des progrès. Et donc, il faut faire des efforts sur la médecine, il faut faire des efforts sur la prévention, et aussi, il faut faire la vaccination.
Très bien, mais vous ne m'avez pas répondu. Monsieur le Président de la Région Sud et patron des régions LR, est-ce qu'il faut aujourd'hui casser la dynamique en reconfinant, même s'il faut territorialiser, est-ce que certaines régions doivent être reconfinées? Selon vous.
Si vous avez dans ces trois taux, ces trois incidences, ces trois critères qui ne doivent plus évoluer, les trois réponses que je vous fais, plus de 250, plus de un taux de positif de 1 et plus de 65% en réanimation, oui, mais il ne faut pas le faire sur la totalité du territoire de façon unilatérale. On a un débat en permanence sur savoir s'il faut passer de 20h à 18h. La réalité, c'est quand vous faites votre couvre-feu de 23h à 20h, il y a un réel efficacité, réel. L'arme absolue, c'est le reconfinement. Mais de 20h à 18h...
d'impact à 18h.
Ben pourquoi il y en a ? Est-ce que quelqu'un peut vous dire que ça marche ? Vous avez un plateau.
Attendons de voir. Quand on met en place une mesure, on attend de voir une
mais
semaine ou deux semaines après
quoi.
Les
quand
faits.
Quand vous avez monsieur le professeur Delfrécy qui vous explique qu'on est en extrême urgence mais qu'il faut attendre. Attendez, moi je suis un médecin urgentiste, il y a les urgences,
attends,
il y a
c'est
les
un
extrêmes
alors
urgences,
reconfinons
mais
tout
il faut
suite.
Attendre. Donc tout ça ne tient pas la route. Comment peut-on attendre quand on est en extrême urgence ? C'est le malade qui fait un arrêt cardiaque, on va voir si finalement il va vraiment mourir. C'est
oui,
ça.
Mais attendez, monsieur Renaud Muselier, juste un instant. Il faut aller vite, dans ce cas-là, il faut tout de suite avoir une mesure restrictive
prenez
et assez.
Les critères
et assez
qui sont
dur.
Toujours les mêmes, que l'on connaît maintenant. Ça fait 10 mois qu'on travaille sur cette maladie. Prenez les mêmes critères et vous prenez les critères et vous dites sur par territoire ça fonctionne. Après, vous me parlez de la vaccination. Comment se fait-il que dans la région Normandie, chez mon ami monsieur Morin, ils sont 3 fois plus de vaccins aujourd'hui, à ce jour, que nous, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où les 6 départements sont rouges. Mais comment c'est possible ?
Il faut prioriser, selon vous, les régions rouges.
On 3 fois plus à un endroit où il y a beaucoup de malades.
Il faut prioriser
les
régions rouges. Et en matière de vaccination, justement, il n'est pas possible. Il n'est pas possible pour les collectivités locales de se substituer à l'État pour acheter directement des vaccins au laboratoire. Est-ce que ce n'était pas un effet d'annonce, certains disent, de la part des présidents de région, dont vous-même ?
Non, c'est fait dans rien du tout. On a le même problème avec les masques.
C'est pas la même chose.
Non, mais connaissez pas, c'est pas
là,
la même chose.
Vous pouvez pas directement
mais
négocier
non,
mais
vous
pour les vaccins.
On peut pas les acheter. On pouvait pas les acheter les masques à l'époque. On nous expliquait qu'il y avait trop de surtension. Il y a le monde entier qui allait en Chine. On en a trouvé 130 millions et le gouvernement n'en avait pas. Les Américains nous ont piqué sur le tarmac et on a réussi quand même à les ramener.
On sent de la colère ce matin chez vous-même, de la frustration de ne pas pouvoir participer davantage aux décisions.
Mais parce que quand je travaille avec monsieur le maire, c'est fluide. Quand je discute avec le Premier ministre, c'est facile. Quand je pose la question sur les autotests salivaires pour faire en sorte que l'avenir passera par les autotests, j'ai des réponses. Avec le ministère de la Santé, nous n'avons jamais aucune réponse. Ils ont l'arrogance et la prétention de savoir qu'ils ont raison. Ils osent nous dire quand même que eux sont là pour sauver les gens. Et quoi, nous on est là pour les tuer ? Mais on a vu ça où ? On a vu dans la première vague qu'on était souple, agile, efficace, performant. On a apporté des réponses financières pour nos territoires, de responsabilité sur les couvre-feux, où nous-mêmes nous sommes allés plus loin que le gouvernement dans ce nombre de demandes. Et on se retrouve aujourd'hui avec, non, il n'y a rien à voir, vous faites de la politique. Mais c'est faux, c'est faux. Nous, on veut réussir la campagne de vaccination pour retrouver la vie. C'est le retour à la vie qui est important pour nous.
Et vous tendez la main, justement, vous tendez
pour
la main.
Pour la énième fois, mais délibérément, je finis par avoir une croix.
On ne peut pas faire fi, Renaud Muselier, d'une campagne quand même à venir. Vous êtes très critique ce matin, on l'entend de nouveau sur l'exécutif. Vous vous attendez à avoir un adversaire. Oui, bien sûr, mais est-ce que vous vous attendez à avoir...
Parce que je m'entends très bien pour le problème du chômage, le chômage partiel avec Mme Borne. On est en contact en permanence avec Monsieur le maire.
Bon,
on
a tout va bien, sauf avec Monsieur Véran, si je dois résumer.
Mais parce que vous avez une crise sanitaire qui entraîne une crise économique et qui a une crise sociale majeure derrière. Et vous ne pouvez pas, je suis médecin, enfin je le répète de nouveau, mais enfin, quand vous faites un mauvais diagnostic à l'entrée, vous avez du mal à faire les traitements
derrière.
Vous
attendez à avoir un adversaire à l'REM lors des prochaines
prochaine régionale ?
Bon, je m'attends à avoir toute une tripotée d'adversaires. J'en ai entre 6 et 12 chaque fois. Donc j'en aurai de toutes couleurs et tendances politiques confondues. Donc ça, c'est le jeu démocratique, c'est classique.
Mais d'ailleurs, de toutes couleurs et tendances, également du Rassemblement National, Thierry Mariani, qui serait face à vous apparemment, il est perçu un peu comme un enfant du pays ou de la région en tous les cas.
Mais c'est même un ami personnel
depuis
longtemps.
Ça va pas être facile, hein, c'est comme un ami personnel adversaire.
En tout cas,
bon, ça écoutez, vous fait sourire apparemment.
Non, mais c'est-à-dire que on a fait toutes nos classes ensemble au RPR et c'est lui qui était le meilleur rempart du Front National à Valréas quand il était. Bon,
ça sera votre
maire
meilleur ennemi alors peut-être au régional.
Ou peut-être qu'on aura un débat apaisé, peut-être en gens qui savent faire de la politique et qui ont une certaine responsabilité. En tout cas, il ne s'est pas manifesté. Moi, je n'ai pas dit que j'étais candidat encore. Je ne serai candidat que si j'estime avoir réussi ce que j'ai à faire dans la région pour
cette crise. Ça semble assez évident, en tous les cas, vous
en tout cas, je suis passionné, c'est fantastique. Je partirai de toute façon avec les uns ou les autres, mais je constate que, quel que soit le camp politique, vous avez des gens qui nous aident ou qui m'aident, et il y a des gens qui essaient de me nuire.
Mais vous pourriez fusionner peut-être avec M. Mariani.
Non, ça non. Enfin, Monsieur Mariani,
c'est un ami, d'abord, vous entendez bien.
Oui, mais enfin, il est là maintenant, il a pris des positions par rapport à l'Europe, par rapport à sa position politique avec Marine Le Pen, qui ne correspond en aucun cas à ma filière politique.
Merci Renaud Muselier d'avoir été notre invité ce matin, patron des régions de France et évidemment de la région Sud. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.
À vous aussi, bonne journée.
Merci Sonia Mabrouk.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h30 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Hélène Zélani.
Couvre-feu à 18h généralisé à toute la France, reconfinement le week-end, ce sont certaines des pistes qui seront examinées par le Conseil de défense sanitaire qui s'ouvre dans une demi-heure à l'Élysée. Les décisions du gouvernement seront annoncées demain. Ce matin, sur Europe 1, Yazdan Panin, membre du Conseil scientifique, a reconnu que de nouvelles mesures pourraient être nécessaires, mais il a quand même lancé un message d'espoir.
Je pense qu'on a encore quelques mois à passer et après, on verra la lumière. Je pense que c'est très important de rappeler parce que il y a un moment dans cette crise, on voyait pas la lumière. Là, la différence, c'est que on a peut-être la lumière au bout parce qu'on a des outils maintenant qui nous permettent.
Et Yazdan Panin qui a aussi abordé la question des contaminations à l'école. Il ne préconise pas la fermeture, mais davantage de prudence à la cantine. On sait que le taux de positivité des moins de 10 ans a sérieusement augmenté de 3 à 10% en une dizaine de jours. Comment on explique cette hausse, Victor Delande?
Alors, il faut écarter d'emblée la piste de la rentrée des classes car ce sont des tests réalisés pendant le week-end du Nouvel An ou la semaine dernière. Et s'il y a eu plus de résultats positifs, cela veut dire tout simplement qu'ils ont été contaminés avant, donc pendant la période des fêtes. En revanche, deux explications possibles à cette augmentation. D'abord, les enfants se sont fait beaucoup plus tester. C'est mathématique, plus on teste et plus on a de chances de retrouver des cas positifs. Deuxième explication possible, le variant anglais, très contagieux aussi chez les plus petits, est davantage présent sur le territoire que les cas réellement détectés. Mais attention, ce taux de positivité est à prendre avec des pincettes, selon Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches.
Indépendamment du pourcentage qui montre une augmentation chez les enfants, le chiffre en valeur absolue reste, lui, tout de même encore relativement faible. Il faut prendre cette information comme étant un indicateur que le fait de l'épidémie est présente est à risque de continuer à se propager pour les semaines à venir.
Car dans les faits, il y a toujours moins de cas diagnostiqués chez les jeunes. 54 enfants de moins de 14 ans sur 100 000 sont positifs au coronavirus. C'est 3 fois moins que dans la population générale.
Victor Delande, prochaine étape de la campagne de vaccination, les plus de 75 ans hors EHPAD. Ce sera dans toute la France à partir de lundi, mais c'est dès aujourd'hui à Nancy. L'activité s'est très légèrement améliorée en décembre, selon la Banque de France, avec un écart ramené à moins 7% par rapport à la situation d'avant-crise, contre moins 11% en novembre. Information du service police-justice d'Europe 1, la mort d'un automobiliste cette nuit à Fleury dans l'Oise, apparemment en état d'ivresse. Il a foncé sur la voiture des gendarmes et s'est tué sur le coup. Les 3 militaires à bord sont blessés. Et puis autre information Europe 1, une dispute autour du port du masque a dégénéré dans un bar de Pau dimanche dernier. Un homme a violemment frappé, restera hémiplégique. Son agresseur a finalement été arrêté. Et puis des heures bloquées sur l'autoroute A40, jusqu'à 2500 automobilistes ont dû passer dans le froid à cause de très fortes chutes de neige dans l'Ain. La circulation a finalement repris au compte-gouttes.
Merci Hélène Zélani sur Europe 1. Tiens, je voudrais vous faire entendre une voix ce matin. C'est pas forcément très amusant, mais écoutez bien. Nous sommes en Irlande, pays très catholique, vous le savez, dans lequel on a connu des maisons tenues par des religieuses dans lesquelles on plaçait des jeunes mères célibataires, des mamans d'enfants jugées illégitimes. Eh bien, en Irlande, il y a une commission d'enquête qui a mis en lumière les pratiques de ces maisons. L'enquête a mis en évidence 9000 décès, 15% des enfants qui sont passés dans ces établissements au XXe siècle. Écoutez cette déclaration du Premier ministre irlandais hier. Ce régime ne nous a pas été imposé par une puissance étrangère, c'est nous qui l'avons fait en tant que société. Nous avons maltraité les femmes de manière exceptionnelle, nous avons maltraité les enfants de manière exceptionnelle, nous avions une attitude complètement faussée en matière de sexualité et d'intimité. Et les jeunes mères et leurs fils et filles ont dû payer un prix terrible pour ce dysfonctionnement. Le Premier ministre irlandais, c'est aussi ça, le monde qui change. 8h34 sur Europe 1. Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Et la neige semble s'effacer un tout petit peu sur l'Alsace, la Franche-Comté et les Alpes du Nord, mais dans ces contrées, malheureusement, elle va persister quand même. Même si elle est un petit peu moins forte, elle va persister dans le courant de la journée. La Haute-Savoie a été levée en matière de vigilance, mais la Savoie est maintenue. Dans les autres régions, c'est la pluie qui va l'emporter. C'est un temps très humide sur la France, excepté quelques éclaircies sur la Bretagne, la Loire-Atlantique, le Poitou-Charentes et la Gironde, excepté beaucoup de soleil sur la Méditerranée, mais avec pas mal de vent, hein, du vent autour de 70 à 100 km/h. Bon, c'est une journée pas terrible. Demain, il y aura encore de la neige sur l'Alsace, la Franche-Comté et sur les Alpes du Nord. Les températures resteront identiques à celles d'aujourd'hui, où elles montent bien. Nous aurons 11 à Paris, 12, 10 à Toulouse, 9 à Clermont, 8 à Dijon, 7 à Nancy. Et pour les plus douces, Corse, 15 et Nice et Marseille, 13.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol. 8h35, dans un instant, on prend soin les uns des autres. Notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed. Quelques conseils, vous allez les prendre note, quelques conseils pour éviter un AVC. Rien que ça, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h37 sur Europe 1. Nous sommes avec le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu.
Bonjour docteur.
Bonjour à tous.
Un peu solennel, on est dans la salle d'attente avec vous. Ce matin, nous allons prendre soin de notre cerveau et parler de l'AVC, l'accident, je l'avais jamais en entier, tiens, l'accident ischémique vasculaire.
L'accident vasculaire ischémique, l'accident vasculaire cérébral. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. C'est pour ça que j'ai voulu vous en parler. C'est un accident vasculaire cérébral toutes les 4 minutes en France. Ça veut dire qu'à l'issue de cette chronique, une personne en aura fait un. C'est un Français sur 6 qui en aura un au cours de sa vie. Donc c'est extrêmement fréquent. Et vous allez voir surtout qu'il est possible de l'éviter ou en tout cas de limiter au maximum les facteurs de risque. On peut essayer d'améliorer les choses. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous faites un accident vasculaire cérébral, vous avez une artère dans votre cerveau qui soit va se boucher à cause d'un petit caillot ou qui va saigner. Ça va donner une hémorragie. Raison pour laquelle vous allez avoir des signes neurologiques d'apparition brutale. La première chose à retenir, c'est que si jamais vous avez tout d'un coup un signe neurologique, une faiblesse musculaire, une baisse de la sensibilité, une difficulté à parler, un trouble de la vision, vous voyez moins bien tout d'un coup, ou des maux de tête d'apparition brutale qu'on dit en coup de tonnerre, eh bien il y a une seule chose à faire, et même si vous constatez ça chez votre entourage, c'est d'appeler le 15. On ne se rend pas chez son médecin traitant, on ne va pas à l'hôpital, on fait le 15, et à ce moment-là, vous avez un médecin régulateur qui fera le point avec vous.
Petite question qui n'était pas prévue, quel que soit son âge ?
Quel que soit son âge, ça touche plutôt les personnes de plus de 65 ans, mais à tout âge, même à 30 ans, et en particulier les femmes qui vont fumer, prendre une contraception avec des hormones, sont à risque de faire aussi un accident vasculaire cérébral.
Comment est-ce qu'on fait pour éviter alors cet AVC ?
Je vais vous proposer 5 mesures simples qui sont validées, qui vous permettent de réduire de 80% votre facteur de risque de faire un accident vasculaire cérébral. Alors, c'est des mesures qui prennent du temps. C'est pas juste un peu de sel, un peu de poivre, c'est un investissement
ça,
sur le long terme.
C'était plutôt dans la semaine, c'était pour l'infarctus.
Exactement. Alors, soyez patient, mais ça vaut le coup de miser là-dessus. La première chose, c'est contrôler votre tension artérielle. C'est le principal facteur de risque de faire un accident vasculaire cérébral. Et ce qu'on sait, c'est qu'en France, il y a un hypertendu sur deux qui s'ignore. Donc allez voir votre médecin, contrôlez votre tension artérielle ou achetez un petit appareil ou empruntez celui du voisin essentiel à ce moment-là. Allez voir votre médecin pour contrôler votre cholestérol. Je vous en parlais lundi, mais le trop de cholestérol, c'est pas bon pour le cerveau. Mangez sainement, 5 fruits et légumes par jour, de l'activité physique, 30 minutes de marche, arrêtez de fumer, ça multiplie votre risque de faire un AVC par deux. Et dernière chose, c'est peut-être un argument auquel...
Vous êtes allé vite, arrêtez de fumer, on multiplie par deux le risque d'AVC en fumant.
Exactement.
Si je prends l'info à l'envers.
Et j'étais un peu vite pour la dernière chose, qui est peut-être la plus importante, notamment pour les jeunes, qui sont peut-être sensibles à ce message. Le cannabis augmente le risque de faire un accident vasculaire cérébral par un spasme, une contraction d'une artère qui va donner un AVC. Donc peut-être qu'avec toute cette petite chose, les jeunes pourront être un peu plus sensibles et vous, pour éviter de faire un AVC, prendre soin de votre santé.
Merci Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1 qu'on retrouve tous les jours de 15h à 16h dans Sans Rendez-vous, l'émission Santé avec Mélanie Gomez. Notre planète à présent à 8h40 avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et Fanny, vous nous parlez ce matin de l'expérimentation animale, qui est le fait de tester sur des animaux des substances ou des traitements pour tenter de prévoir ce qui se passe chez l'humain.
Oui, l'expérimentation qui a principalement pour but, je le rappelle, d'accroître nos connaissances ou de réaliser des études toxicologiques. Ce sont en 2018 près de 2 millions d'animaux qui ont été utilisés dans les laboratoires français. C'est en tout cas ce que nous dit une enquête du ministère de la Recherche. Pourtant, certains secteurs comme celui de la cosmétique ne font désormais plus aucun test sur l'animal. En effet, au sein de l'Union européenne, l'expérimentation animale est interdite pour homologuer des produits cosmétiques. La question est aujourd'hui de savoir s'il sera un jour possible de ne plus du tout faire de tests sur les animaux. Une question à la fois éthique, mais aussi scientifique, puisqu'il faut pour cela que les techniques évoluent vers de nouvelles possibilités.
Alors quelles sont justement les alternatives possibles qui permettraient de ne plus faire des tests sur les animaux vivants ?
Alors, il y a, Mathieu, des avancées majeures qui ouvrent des perspectives très intéressantes, notamment à travers la culture de cellules qui permettent de créer des organoïdes, c'est-à-dire de faux organes. Imaginez en quelque sorte un tas de cellules agglomérées qui reproduisent les fonctions et les réactions de certains organes. Un procédé encourageant, surtout pour les études toxicologiques, car cela permet d'avoir un aperçu des réactions de tel ou tel organe lorsqu'une substance lui est administrée. La seule limite, c'est qu'il s'agit de tests réalisés sur un seul organe isolé, alors que la complexité d'un être vivant doit être appréhendée dans sa globalité avec toutes les connexions et interactions de son organisme. Et si je puis dire aussi, il y a un autre écueil, c'est que pour extraire des cellules animales, il faut nécessairement passer par l'extraction de cellules chez de vrais animaux, ce qui n'est pas nécessairement plus éthique.
Alors, il y aurait une autre option, c'est le virtuel.
Oui, oui. Alors là, cette fois, l'expérimentation n'utilise aucun organisme vivant, ni même aucun fragment d'être vivant. Plutôt destiné aux étudiants et à la pédagogie, il est possible, grâce à la réalité virtuelle, de reproduire en trois dimensions un corps humain ou un animal. Cela permet de recommencer encore et encore une expérience et de constater les réactions, sans pour autant avoir sur sa conscience la souffrance ou la mort de centaines de rats ou de lapins. Pour les étudiants, il n'y a pas de stress de se louper lors d'une manipulation, et donc dans ces conditions, il est quand même beaucoup plus facile d'apprendre. Une avancée réelle, même si la route sera très très longue encore pour que les animaux désertent un jour les labos.
Merci beaucoup Fanny Agostini, Notre Planète, tous les matins sur Europe 1. 8h42 dans un tout petit instant, Nicolas Canteloup et Julie qui s'installent.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h45, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
Presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour les titres de l'actu.
Oui, bonjour, bienvenue sur Europe 1. C'est Mathieu Béliard, bienvenue sur Europe 1. Écoutez, le monde, ben, finalement, pas trop changé, finalement. L'info du jour, ben oui, ça change pas trop. L'info du jour, ce sont les enfants, quand même. Et ça, c'est nouveau, qui se contaminent de plus en plus, il faut le dire, à la cantine. Et d'un côté, c'est vrai que quel enfant ne rêve pas de perdre le goût pour mieux supporter la cantine.
Oh non. Hein,
bah si, quand t'as dans ton assiette la betterave saveur caoutchouc et du poisson surgelé au chou de Bruxelles, peut-être vaut-tu mieux ne rien sentir.
Ça a du sens.
Mais voilà, donc mon conseil santé, si Jimmy m'y autorise et si j'arrive à tenir la fin de cette séquence, puisque à la fin de la chronique de Jimmy, il apparaît qu'il y en a un qui va faire un AVC. Donc, donc mon conseil santé, si Jimmy m'y autorise, allez-y les enfants, pour votre confort et vos papilles, toussez-vous dessus.
Voilà, oh, arrêtez. Dessus. C'est pour
allez.
Rire les enfants qui écoutent. Hein. C'est
allez,
pour rire.
Non, personne n'écoute.
Oh,
autre chose.
Ça va, oui.
Allez, non,
mais pas bien. Mais alors, on fait du bon boulot, on nous écoute. Mais qu'est-ce que c'est que ça,
c'est corporel. Non, mais tout le monde nous écoute, mais faites pas les enfants. Allez, l'autre info, même mes propres enfants, hein, moi, Mathieu Béliard, ils écoutent Radio Garage, pas Radio. Allez, l'autre info, c'est Jean Castex. Allez, soyons sérieux, c'est important l'info le matin. C'est Jean Castex qui va sans doute annoncer. Oui, il a annoncé, il va annoncer un couvre-feu à 18h partout en France. Bon,
on verra.
Le côté positif, c'est qu'on sera peut-être prioritaire pour le vaccin, vu qu'on aura tous la même vie qu'un résident d'EHPAD.
Ah.
Et oui, à creuser. Allez, la dernière info. Après, il y en a plus, c'est promis. Après, je fais mon AVC. C'est Patrick Balkany. L'ancien maire de Levallois, Patrick Balkany, a été placé, vous l'avez entendu, en garde à vue dans une nouvelle affaire judiciaire. Et là, j'ai envie de dire ouf. Non, mais franchement, ça fait du bien. De voir qu'il y a des choses qui ne changent pas complètement en ce moment, ça fait un bien fou. Merci à Patrick Balkany. À vous, Julie.
Merci, Mathieu. Emmanuel Macron préside ce matin un nouveau Conseil de défense. Bonjour, Monsieur le Président. Alors, encore un Conseil de défense. Mais en fait, c'est quoi un Conseil de défense? On a l'impression que ça a plus d'importance que le Conseil des ministres.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, chère Julie, je vais vous éclairer. Je comprends qu'on s'interroge. Mais
Mais rassurez-vous, un conseil de défense, c'est exactement comme un conseil des ministres, mais sans les chieurs.
Pardon.
Mais vous voulez comprendre, donc je vous explique clairement, peut-être de façon un peu triviale, mais voilà, il n'y a que les gens importants, il y a le maire Darmanin, Véran, Castex et moi, voilà, on ne s'emmerde pas à écouter des Julien de Normandie, des Sébastien Lecornu, des Agnès Pannier-Runacher, voilà. C'est sympa pour Sonia Mabrouk, ça va être facile pour elle d'inviter ceux-là. Mais non, tous les derniers que j'ai cités, franchement, on s'en balèque, hein, ils sont...
Arrêtez. Enfin, ce sont quand même vos ministres, là, que vous avez cités, allons.
Je sais que c'est mes ministres, attendez, chère Julie, mais on n'a pas le temps de s'occuper des bricoles. Hein. Bon, écoutez, j'ai Mohamed le sait, j'ai une pandémie à gérer. Je peux pas écouter Barbara Pompili pleurnicher sur la réintroduction des papillons en Indre-et-Loire. Hein. C'est sympatoche en temps normal, je ne dis pas, mais là, lors d'une épidémie mondiale, on peut pas se fader 22 minutes de Roxana Maricianu.
Il sait même pas dire le nom de son ministre des Sports.
Roxana Maricianu.
Voilà.
Et là, on va pas se la fader 22 minutes en train, comme l'autre jour, en train de qui veut essayer de me faire subventionner un championnat de deuxième mission de tennis de table dans le Val d'Oise.
Bon alors, qu'est-ce qui se dit dans ce conseil de défense? Pourquoi ce nom déjà? Conseil
Pourquoi
de défense
ce nom de défense, parce qu'on y élabore notre réponse au virus. Défense de sortir après 18h, défense d'aller au théâtre, défense d'aller au cinéma, que sais-je, défense de faire du sport, défense de manger au restaurant. Conseil de défense, voilà, ouais, c'est tout.
D'accord, c'est plus clair.
Comprenez rien même, Julie, ce matin.
Alors, vous avez dit que vous assumiez de changer de stratégie toutes les semaines. Toutes les semaines, on va changer, dis-donc.
Oui, mais ça ne vous plaît pas. Encore heureux, je change de stratégie toutes les semaines. La première semaine, souvenez-vous, c'était déjà très longtemps, ma stratégie, c'était qu'on ne porte pas de masque et qu'on continue à aller au théâtre. Alors, on change de stratégie ou pas?
Oui, effectivement, c'est vrai que ça a bougé depuis. Bon, merci, Monsieur le Président. Bonne journée. Alors que la campagne de vaccination doit encore s'intensifier, des inquiétudes surgissent quant au nombre de seringues disponibles. Est-ce qu'on aura assez de seringues? Bonjour Gérard Rolls. Faites quelque chose.
Génial. Bonjour, c'est Gérard Rolls. Bonjour Julie, bonjour Mathieu. Bonjour Jimmy, Lolo, Polo. Bonjour, tout le monde est là. Et c'est la grande question. Aura-t-on assez de seringues pour vacciner tout le monde? On ne sait pas. On va essayer, on va faire tout ce que l'on peut. Il faut arriver à piquer tout le monde. Tout le monde doit être piqué. Alors bienvenue à ce grand picoton. Envoyez vos seringues, envoyez vos aiguilles, qui que vous soyez. Si vous êtes toxico à Barbès, si vous êtes camé à Stalingrad, si vous habitez sur la colline du crack, donnez vos seringues, soyez généreux. Des people se sont mobilisés, on les remercie. Je me tourne vers le parrain, merci à lui parce que je sais qu'il est très occupé. Merci à ce parrain pour cette opération qui a décidé de faire un don. C'est Richard Virenque. Richard, bonjour. Bonjour Gérard, écoutez, j'ai décidé de vous apporter un lot de seringues là. J'espère que ça pourra aider. Je les ai collectées auprès de toutes les anciennes, mes copains du Cyclims qui étaient sur le Tour de France. Voilà, celle-là, elle est belle, j'y tenais beaucoup, mais ça me fait plaisir de la donner. Elle a appartenu à Lance Armstrong. Voilà. Wow. Celle-là, elle était à Marco Pantani.
Oui.
Voilà. Celle-là, elle a une petite histoire. Elle m'a servi à gagner l'étape Courchevel-Morzine en 2000. La cassez pas, parce que j'y tiens beaucoup, c'est un souvenir. Génial, quelle générosité. Richard Virenque, qu'on vous reconnaît bien là. On espère qu'elle servira à sauver une vieille dame, au moins cette seringue. Allez, on ne lâche pas. D'autant que le compteur a bougé. Merci Jean Le Naf, qui était déjà là il y a 10 ans pour le compteur qui a bougé. Jean qui nous met ce générique qui nous touche tant. Oui, Jean.
Enchaînez.
Le compteur a bougé, oui, ouais, c'est ça. On en est à 100 000, Mathieu, Julie. 100 000.
Ben alors, Gérard.
118 100.
Oui, allez.
Et en tout cas, voilà, le compteur a bougé, c'est l'essentiel. Jean Castex, le Premier ministre, lui, n'a pas bougé, toujours en duplex avec nous. Bonjour, Monsieur Castex.
Ah, bonjour, monsieur Rolls. Monsieur Rolls, bonjour à papy et mamie qui sont vos téléspectateurs et tâteuses habituelles. Oui, la campagne vaccinale bat son plein, vous l'avez dit. Nous allons aller en augmentant car les pharmaciens, les infirmiers et les médecins, tout le monde va être
les pharmaciens.
Les pharmaciens. Les pharmaciens. Oui, 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 parce que il faut que je consulte monsieur Mohamed. J'ai le nez bouché de façon chronique. Alors, le vaccin, les pharmaciens, oh là là là. Les médecins, vous avez compris, vous avez craqué l'imitation. Bon, alors, les VT, oui, donc je le disais, tout ce monde-là est autorisé à piquer. ER, parce que c'est un verbe du premier groupe. Oui. Les vétérinaires. ER, c'est
oh là 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 là, mais abrégez un peu là.
Les vétérinaires sont autorisés à piquer et chez qui on amène parfois mamie, ça peut arriver, tout le monde, tout le monde peut piquer. Ceux qui sont habitués à piquer, les diabétiques sont habitués à l'aiguille pour en piquer. Si les diabétiques, au lieu de vous injecter de l'insuline, allez injecter les vaccins. Et ne gardez pas vos seringues juste pour vous, ne soyez pas égoïstes, les diabétiques.
Oui, allez,
les
bon, on a compris.
Formidable, génial, merci Jean-Lenef, toujours au point pour lancer ce générique. Voilà, on l'a entendu. Si vous êtes un médecin, continuez à piquer, allez-y, piquer. Si vous êtes un infirmier, un pharmacien, un moustique, une guêpe, un frelon, un tique, piquez à vous, Julie.
Merci Gérard Rolls. On ne parle plus que de la situation sanitaire en Grande-Bretagne. Michel Simès est avec nous, bonjour docteur. Alors le virus mutant anglais terrorise toute l'Europe maintenant, hein.
Eh oui, ma chère Marina, c'est vrai, mais en même temps, vous avez vu comment vous l'appelez dans les médias, le virus mutant qui terrorise l'Europe. Alors évidemment, ça fout légèrement les jetons, on dirait
même, hein.
Le titre d'un film d'horreur, vous en conviendrez, l'attaque mortelle du virus mutant zombie. Voilà, on pouvait pas simplement l'appeler la nouvelle souche ou le Covid-20, je ne sais pas,
ouais, enfin,
il y avait d'autres
fou.
Idées peut-être.
Ouais, pas faux. Alors le virus qu'on connaissait s'attaquait surtout aux personnes âgées, et puis celui-ci c'est l'inverse, il s'attaque aux plus jeunes.
C'est l'inverse, il s'attaque aux plus jeunes, vous avez tout compris ma chère Marina, vous l'avez dit, c'est un virus anglais. Les Anglais font tout à l'envers, vous le savez, quand on conduit à droite, ils conduisent à gauche.
Ouais.
Quand le virus attaque les vieux, le virus anglais attaque les jeunes, c'est comme ça depuis toujours, faut qu'ils fassent l'inverse les roast beef. Même en musique d'ailleurs, quand on faisait Claude François, ils faisaient les Beatles.
Oh bah ils n'avaient pas tort, allez.
Soit dit en passant, merci Julie, fallait le dire. Merci Nicolas Canteloup et ses auteurs Philippe Cavrivia, Laurent Vassilian et Arnaud Demange. Vous retrouvez la revue de presse sur Europe1.fr. 8h56, Philippe Vandel est avec nous, Culture Média. La matinée continue sur Europe 1. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu, notre info média du jour, c'est une série de dessins animés. Et pourquoi on en parle? Ça s'appelle Chouette, pas chouette. On en parle parce que ces dessins animés visent à sensibiliser les enfants à la lutte contre le sexisme et au respect de la différence. C'est diffusé à partir d'aujourd'hui sur les principales chaînes jeunesse, mais pas seulement. Et une fois n'est pas coutume, sur les quatre principaux groupes de télévision, TF1, France Télé, M6 et Canal+. Au sommaire également, la directrice de la rédaction de Télérama, Fabienne Pascaud, qui va nous parler un des bons résultats de son journal et surtout de la 8e édition de Télérama Dialogue, série de discussions sur la culture. Donc c'est la 8e saison cette année. Et puis la comédienne Alix Poisson pour la fiction inédite Disparition inquiétante. C'est ce soir sur France 2. Vous la connaissez, Alix Poisson. Elle était dans Parents mode d'emploi, scénario de Blanche Gardin.
Eh bien voilà, j'allais le dire, mais vous m'avez enlevé les mots de la
magnifique. Quelle culture,
Philippe
Mathieu
Vandel. Non, c'est pas vrai. Philippe Vandel, Culture Média, pour se cultiver. Oui, je vous écoute de 9h à 11h sur Europe 1. Je reviens moi à l'antenne demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.